Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir ou bonjour à toutes et tous. On refait le match 27e de la saison 27. On salue les auditeurs de l'Eure, le département de l'Eure, et comme vous tous, par ailleurs, qui êtes toujours aussi nombreux à nous écouter entre 18h30 et 20h. Vous le savez, on le répète, chaque samedi, émission 100% interactive à retrouver sur la toute nouvelle application qui réunit tous les podcasts de RTL. Et à 20h, du nouveau sur l'antenne, j'y reviendrai dans un court instant. Match de 17h, Nantes-Marseille, un but partout entre les deux équipes dans un instant, direction la Beaujoire. Match de 13h, Saint-Étienne-Reims, un but partout, résultat final entre les deux équipes. Avec moi ce soir, Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football de RTL. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Dominique Sellerac, le Parisien aujourd'hui en France.
Bonsoir Christian, Dominique. Bonsoir tout le monde.
Gilles Verdez, le procureur dont fait le match. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Et Stéphane Poels, écrivain francophone. Vous saurez pourquoi dans un instant. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Christian.
Au menu de cette émission filmée avec vos messages sur Twitter, @RTLFoot et relayée par Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste Durieux, s'il m'entend, est-il là? Bonsoir.
Bonjour tout le monde.
L'Olympique de Marseille, c'est au menu du soir. L'Olympique de Marseille est-il définitivement un club à part? Je vous poserai la question. Valdemar Quitta, président du FC Nantes, est-il un homme incompris? Ce sera ma deuxième question. En même temps, peut-être d'ailleurs que la séquence Nantes-Marseille, le score actuellement, toujours un but partout. Pour le Paris Saint-Germain, cette fois-ci, après 19h, est-ce vraiment la bonne, la victoire en Ligue des Champions, avec les résultats du baromètre Odoxa RTL Winamax? Est-ce vraiment la bonne? Je vous poserai la question donc après 19h. 19h30, Jean-Michel Aulas, président de Lyon, a un plan pour le retour des supporters en tribune. Bon ou mauvais plan? J'attends vos arguments. Et puis les tirs au but, tout le reste de l'actualité football improvisé par des questions que vous allez, messieurs, découvrir au tout dernier moment, dont la fameuse, vous le savez maintenant, question Ligue 2, hein, car vous connaissez mon slogan, la Ligue 2, c'est de mieux en mieux. A tout de suite, vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL, on refait le match.
On fait match, Nantes-Marseille, le direct également pendant les débats. Philippe Audouin, bonsoir à la Beaujoire.
Bonsoir Christian, un partout à un quart d'heure maintenant de la fin. Et les Marseillais là qui sont en défense, attention, il y a peut-être une occasion de 2-1 qui se dessine pour les Nantais. Une belle interception finalement d'Alvaro, celui qui avait fait la passe en retrait tout à l'heure pour Mandanda. Mandanda qui s'est complètement raté dans son dégagement au pied, ce qui a permis à Blas d'ouvrir le score après 5 minutes en deuxième période. Et l'égalisation marseillaise est arrivée des pieds de Payet, jolie égalisation d'ailleurs sur une action de Rongier et Nagatamo. Payet en pleine course de l'intérieur du pied dans la surface qui a pu égaliser donc à 20 minutes de la fin. Une deuxième mi-temps qui est quand même beaucoup plus plaisante que la première qui était soporifique, plus que 14 minutes un partout.
Antenne ouverte Philippe, dès qu'il se passe quelque chose bien évidemment on va parler de ce match, on va parler de Nantes, on va parler de Marseille, on va prendre notre temps et Philippe peut intervenir dès qu'il le souhaite. Je vais prendre quelques secondes supplémentaires pour faire un peu de promo. D'abord, la promo sur RTL à partir de 20h. Vous le savez, messieurs, c'est la première fois, c'est le premier samedi sans match de Ligue 1. Mais quand il n'y a pas de match de Ligue 1, il y a toujours du football, il y en a encore plus sur l'antenne de RTL. Alors, à nos amis auditeurs, voici le découpage. 20h-21h, un long décryptage sur les matchs de l'après-midi, une mise en perspective avec toutes les informations des matchs de demain. Là, ce sera vraiment la Ligue 1 au plus profond de tout ce qu'on peut récupérer comme information, décryptage et analyse. Une petite respiration juste avant 21h avec nos amis de Petit Pont qui s'adressent aux jeunes auditeurs. C'est toujours rafraîchissant d'entendre leur point de vue. Donc voilà, 20h-21h, c'est du foot et beaucoup de foot. 21h-21h30, c'est du foot mais en Europe. Le Conseil de l'Europe avec toute l'actualité italienne, allemande, anglaise et espagnole. Donc là, on saura tout, mais version...
Il y a des choses à dire avec cette semaine, l'Europa League et la Champions League.
Et avec le résultat pas plus tard de tout à l'heure, oui, où le Bayern Munich a été battu à Francfort sur le score de 2-1. À 21h30, ça, ce sera une nouveauté avec toute l'actualité, alors la pire et la meilleure, sur les réseaux sociaux. Décryptage,
ça c'est bien ça.
Je préférais une heure. Oui. Mais là, tout de suite, le service des sports m'a dit
tu vas aller jusqu'à 2h du mat.
C'est une émission laboratoire.
J'adore déjà la demi-heure, moi.
Voilà. Et avec des influenceurs qui viendront en studio également pour nous parler de leur compte Twitter, Facebook, etc. Bref, c'est nouveau, c'est tout beau.
C'est bien ça.
Et c'est un premier test. Ouais. Et puis, quoi d'autre, Philippe Sanfourche, vous qui êtes le chef de la rubrique
Après, à 22h, nos amis tenteront.
péniblement de faire du débat et d'essayer de copier en fait le match. Oui. Mais ce sera quand même de qualité.
Alors là, je vous laisse l'entière responsabilité de vos propos.
Ce sera différent.
D'autres débats.
Pour que ce
d'autres
soit mieux, il suffit de nous inviter. Hein.
Donc 21h23, ça va être sympa. Et même sur le football, ce sera encore plus sympa. Voilà.
Est-ce que vous allez parler du foot amateur aussi?
Est-ce qu'on a prévu ce soir? Peut-être pas. Mais il y a une casse foot amateur, mais
parce qu'il y a de la demande.
Oui, alors il y a un retour du football amateur. Bon, ouais, on va en parler dans le fil match.
Ce qui est évident, c'est que les amateurs de foot, eux, auront le droit d'appeler et d'intervenir sur l'antenne.
C'est mieux que quand il y a des matchs, en fait.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Vous êtes distrait, Gilles.
Oui,
c'est ce que
je disais. Surtout quand on voit les matchs. Je vous appuie.
Mon camarade, Gilles, il le sait. Une autre promo, l'ami Poels, Stéphane Poels, qui vient nous rendre visite très régulièrement, a écrit un bouquin qui s'intitule De la lumière à l'infamie aux éditions La boîte à Pandore. Alors, Stéphane, tu racontes là-dedans une partie de ta vie, une période pas très heureuse, une affaire judiciaire avec un procès qui t'a réhabilité en partie, avec là aussi une expérience de vie que tu as pu constater où les portes professionnelles se sont refermées au fur et à mesure que tu prenais contact avec la profession. Et donc, voilà, c'est un instant, une plongée dans un monde pas toujours très très intéressant.
C'est pas le jour, hein, puis on est là pour parler de foot.
Je vais montrer à la caméra.
Mais pour parler de foot, on va parler de mon épopée au LOSC, l'équipe d'Algérie, donc ça, il y a des trucs un petit peu plus sympas. Mais on est dans l'air du temps, on va pas...
Non, mais attends, je te pose la question.
La question est, c'est qu'actuellement, on se rend bien compte, quels que soient les dossiers, c'est qu'il y a une certaine presse, j'ai bien dit une certaine presse, parce que moi, j'ai respect de la profession et des gens de qualité qui travaillent bien, mais il y a une presse people, une presse à clic qui, à un moment, se présente comme des procureurs. Et la présomption d'innocence n'existe pas et on recoupe pas les informations. C'est un peu ça l'histoire du bouquin et j'en ai subi
des conséquences. Et tu en as souffert.
Et je remercie RTL de m'avoir tendu la main et aussi d'autres.
Voilà. Alors, voilà.
Il y a aussi des belles personnes dans le milieu.
Stéphane Poels, De la lumière à l'infamie aux éditions La boîte à Pandore. Vous achetez le bouquin, c'est pas cher, il est pas cher, 19,90€.
Non.
Et vous faites votre propre idée, finalement.
Exactement.
Ce qui est intéressant dans le livre que j'ai lu, c'est que Stéphane nommait rien. Y compris ce qu'il a fait, pas forcément par rapport à l'affaire, mais quelques excès, là où sa vie l'a conduit. Donc il y a une franchise, une sincérité qui nous mène effectivement à cette affaire de faits divers surréalistes et à la condamnation. Mais je trouve qu'on voit un homme dans le livre. Et on voit, moi qui le connais, on voit vraiment qui il est à travers le livre. C'est pour ça que c'est passionnant.
Voilà, l'hommage
c'est
de Gilles.
C'est gentil, merci. L'hommage de Gilles me touche beaucoup. Merci Gilles.
On parle foot, les amis. On va retourner à la Beaujoire. Nantes OM, il y a du suspense, un but partout. Philippe Audouin, il reste une petite dizaine de minutes à jouer.
9 minutes dans le temps réglementaire. Pour être précis, les deux changements nantais avec les entrées de Coco et Aymon, ce sont les deux premiers changements d'Antoine Comboiré, alors que Cuisance est entré côté marseillais et Rongier et Germain étaient entrés, eux, dès la mi-temps. Un partout, donc toujours entre les deux équipes, plus franchement d'occasion, mais ça peut encore basculer.
Alors ça tombe bien, messieurs, pour parler justement de l'actualité et sur le terrain, parce que Nantes et Marseille ont des destins sportifs un peu différents, ça a peut-être un...
Joue aussi bien d'un côté que de l'autre.
Ouais,
aussi mal.
Ça va sans doute plus mal pour Nantes, franchement, que pour l'Olympique de Marseille, si on se penche.
Ça va mieux, là. Ils ont viré le plus mauvais entraîneur du monde, Raymond Domenech. Ils ont enfin gagné. Ça va un peu mieux. Ils mettent des buts, ils jouent.
Ça va un peu mieux depuis
quand? Quel optimiste.
Ça va un peu mieux depuis 17h ce soir.
Non, la semaine dernière, ils ont gagné.
Oui, d'accord. Vous avez vu la manière.
Domenech est parti. Les joueurs ont enfin joué. Les joueurs se sont libérés.
C'est l'effet Comboiré.
Vous êtes le pire entraîneur du monde. En votre sein, vous êtes tétanisé, vous êtes paralysé, les joueurs le disaient. Là, enfin, c'est une libération. Nantes a respiré, Nantes revit.
Bon, on sait que vous avez une dent contre Raymond Domenech, mais elle est argumentée. Et non, vous avez fait déjà le buzz. Tiens, on aurait pu vous inviter effectivement dans la nouvelle session des réseaux sociaux avec Eric Silvestro à 21h30, car vous avez fait le buzz en critiquant la première fois Raymond Domenech.
Je l'ai dit avant qu'il soit nommé et je l'ai dit après.
Bah oui, mais bon, Gilles Verdez.
Excusez-moi, où est-ce que vous voyez que c'est argumenté? Je n'aime pas Raymond Domenech, il est nul, il s'en va. Pourquoi Nantes va mieux? Parce que Domenech, en 8 matchs, a préparé Nantes pour aller mieux. Et on ne laisse pas aller au bout de son œuvre. C'est ça la honte. C'est ça qui est inadmissible. Sur votre antenne, j'avais dit qu'il sauverait Nantes. Et bien, il est en train de sauver Nantes, Domenech. En étant absent.
Mais c'est un faux débat, parce que le débat que Christian Olivier veut parler, ça n'a rien à voir avec Domenech. Déjà, il ne fallait pas le prendre dès le début, donc il y a déjà une erreur de casting. Et qu'il fallait prendre Comboiré il y a 8 matchs. Mais moi, je ne suis pas là pour charger M. Domenech. Le vrai problème, je pense qu'on va en discuter, c'est de la gestion de ce club. Et quand vous laissez les cartes en main d'un club de sport à un agent de joueur à un club de première division, vous allez prendre le mur. Alors, je le raconterai après. Quoi. C'est le problème, c'est Kita, c'est pas Domenech.
En ayant Philippe Audouin au téléphone cet après-midi, en préparant cette émission, j'avais dit on va faire une grosse séquence sur Marseille, puis une séquence, mais une séquence quand même sur le FC Nantes. Bah, finalement, on va faire tout de suite la séquence Marseille. On va profiter de la présence de Philippe Audouin. Est-ce que c'est un éternel président incompris, Waldemar Kita, Philippe Audouin?
Ouais, je dirais surtout que c'est lui qui comprend pas tout à fait le club dans lequel il a investi il y a 13 ans et demi maintenant. Donc c'est pas vraiment lui qui n'est pas compris dès son entrée, dès son arrivée, à propos des techniciens qui ont fait la force de ce club. Il avait dit, mais laissez-les jouer au tennis, en parlant de Coco Suedo notamment, laissez-les jouer au golf. Il n'était pas question de rappeler Coco Suedo, mais la moindre des choses était quand même de prendre la mesure du club dans lequel il arrivait. Et bien avant lui, il y avait déjà quelqu'un qui avait entrepris la démolition du club, c'était Jean-Luc Gripon. Depuis 20 ans, ce club a perdu le fil de son savoir-faire, parce qu'à la tête de ce club, eh bien, il y a eu de la compétence et elle perdure, cette compétence.
Oui, et il y a eu peut-être une absence aussi de mémoire sur ce qu'était le FC Nantes, mais puisque tu parlais de Jean-Luc Gripon, Philippe Audouin, messieurs, vous êtes qui est à Paris, je rappellerai quand même que sous les ordres de la présidence de Jean-Luc Gripon, il y avait Loïc Amis, et c'est un ancien Nantais, Michael Landreau, qui s'est chargé, à l'époque où il jouait au FC Nantes, de se débarrasser de Loïc Amis.
Oui.
Donc, voilà.
Sans dire que ce n'était pas forcément mieux avant, mais... Le sentiment qu'on a avec Waldemar Kita, c'est que, à la limite, vous pouvez arriver avec un nouveau projet, quitte à dépoussiérer un petit peu le passé et expliquer qu'on n'avance pas forcément en étant toujours dans l'idolâtrie et dans les souvenirs passés. Ok, mais à ce moment-là, il faut avoir une stratégie, il faut mettre en place quelque chose. Après, ça marche pas, mais il faut une lisibilité. Le problème avec Waldemar Kita, c'est que les années passent et on ne voit aucune lisibilité, puisque les techniciens qui s'enchaînent n'ont absolument aucune filiation l'un avec l'autre. Ce sont des ruptures qui ne sont pas souhaitées, qui sont subies. Et derrière, finalement, c'est un long fleuve comme ça qui j'allais dire tranquille, pas tranquille, parce que d'année en année, on sent qu'il y a une inflexion plutôt vers le bas. Et que finalement, on ne voit pas le bout du tunnel, puisque Waldemar Kita, il a la chance d'être un excellent industriel chef d'entreprise. Et donc, ça ne le dérange pas, en fait, de remettre au pot 20, 30 millions chaque année.
Alors, vous faites bien. Et de continuer moment, ça comme ça.
Gilles Verdez.
Ben non, puisqu'il ouais. fait fortune par tout ce
Moi, je voudrais rappeler que Kita fait remonter Nantes de la Ligue 2 à la Ligue 1. Et Kita paye sans aucun problème, avec son argent personnel et sa fortune personnelle.
Non, mais c'est pas une finalité
si
en soi.
Je voudrais quand même faire ce rappel.
Si je peux me permettre, il a aussi fait descendre Nantes en Ligue 2 dès sa première année, et Nantes a mis 4 ans, c'est quand même pas rien, 4 ans quand vous êtes Nantes, pour remonter en Ligue 1 sous la présidence de Waldemar Kita. C'est quand même ça aussi son passif.
Moi, je ne suis pas de ceux qui accablent Kita, parce que Nantes, c'est un panier de crabes. Vous savez très bien, c'est perclus de clans entre les anciens joueurs qui veulent à tout prix revenir, Landreau qui toute sa vie a divisé quand même et a cherché le pouvoir avec un certain talent, mais qui ne pense qu'à ça, et il a le droit. Il y a des gens qui ne sont qu'obsédés par le pouvoir, et c'est très bien. Encore faut-il ne pas diviser et rassembler parfois. La municipalité, en permanence, oui, venez, on va vous construire un stade. Ah ben non, il y a une enquête qui vous vise, le fisc vous vise, vous comprenez, il n'y aura plus de nouveau stade. Kita, il est tombé dans un panier de crabes, un piège monstrueux, il est en train de perdre tout l'argent.
C'est le quotidien de tous les grands clubs et de toutes les grandes municipalités. Sinon, tu prends un club de National 3 au fin fond de la Creuse et tu n'as aucun souci.
Non, mais excusez-moi.
Non, il y a une histoire.
C'est le quotidien de Marseille, on y viendra dans un instant. Dominique Sévrac.
Avec Gilles, et pour moi, être le propriétaire du club et mettre son argent personnel, ce n'est pas une excuse.
Bah non, mais c'est important quand même.
Non, mais c'est important.
Nous qui n'avons pas de fortune personnelle, on ne peut pas mesurer l'investissement.
Non, mais ça devient une danseuse au bout d'un moment. Christian, c'est-à-dire que ça vous plaît, vous avez de l'argent, donc vous allez investir, vous allez faire n'importe quoi. Et le problème de Nantes, on va en parler aussi avec Jacques-Henri Hérault, ce sont des gens omnipotents qui ne connaissent pas le football et qui veulent dire c'est moi qui sais, c'est moi qui vais faire, c'est moi qui vais vous montrer comment ça marche. Alors, donc... Mais sauf que le football, dans des clubs historiques comme Marseille et comme Nantes, vous n'êtes pas là pour expliquer la messe à des gens. Ils ne savent pas s'entourer, ils croient tout savoir, ils sont condescendants, ils sont arrogants et ils périront par leur arrogance.
Il y a un téléphone qui sonne, je ne sais pas si c'est Waldemar qui regarde le match et qui nous écoute en même temps et qui souhaite...
Ça m'étonnerait. Alors Dominique, reprendre deux choses.
Stéphane Poels.
C'est pas parce qu'on met son pognon, effectivement, qu'on détient la vérité sur le football. Nous sommes bien d'accord. Mais deuxième chose, moi je suis désolé, mais si je mets de l'argent, j'essaye quand même qu'on le dépense bien. Ça fait quand même quelques années qu'on le dépense mal, et je répète, et je vais dire les choses vraies, je ne le cache pas, parce que vous savez que j'ai quand même une amitié assez sincère avec Vahid Ali Lodzic. À l'époque, je n'avais pas eu Vahid depuis des mois. Il m'a appelé quand même en me demandant, en me citant des noms de joueurs, Lee Bombay, je peux vous faire une liste, de mecs qui ont payé, ils ont payé 8 millions d'euros. Ils me disaient que ça vaut quoi ? Ben, je dis, ça vaut Ligue 2, ça ne vaut pas. Il les a fait quand même avec le même agent. Quasiment tous doivent passer par Arnaud Bayat, dont on l'appelle Moji Bayat. Oui, mais son vrai prénom, c'est Arnaud Bayat, ça vous apprend quelque chose, qui a fait tomber Anderlecht dans le même processus avec M. Van Olsbeek. Ça veut dire qu'il avait pris les mains du club d'Anderlecht pour faire tous les transferts. D'ailleurs, les bons agents, parce qu'il y en a qui travaillent bien, ne peuvent plus mettre un joueur à Nantes, puisqu'il faut passer par ce directeur sportif. C'est quand même dingue qu'un agent joueur officie comme directeur sportif dans un club de niveau de Ligue 1, ça va pas.
C'est ce que j'allais dire. Qui est le directeur sportif de Nantes ?
Eh bien, c'est lui.
Moi, je le connais pas.
Eh bien, c'est lui. C'est un agent de joueur. Ben voilà. Donc, comment voulez-vous à un moment bien fonctionner quand un agent de joueur est à la fois aussi directeur sportif de ton club ? Et Kita et son fils ont cautionné ça. Et ils ont fait. Je peux vous faire une liste de joueurs qu'ils ont payé une blinde pour des mecs qui sont quand même des moyens. Bon, et Vahid est parti pour ces raisons-là.
Le procureur dont fait le match va défendre Valdemar Kita.
Stéphane, là, vous donnez l'impression d'avoir inventé la poudre, l'électricité. Tous les clubs de football,
des agents joueurs
mais travaillent
manager
avec des agents spécifiques.
Non, il a le poste.
PSG avant, c'était Barbosa. Marseille, c'était...
Non, il a le poste. Il a le poste. C'est pas vrai, Gilles. Il a le poste.
Monaco, toujours des agents ont travaillé avec Monaco.
Ils n'ont pas tous le monopole, Gilles. On peut être mandaté par un club et avoir un mandat exclusif.
Il a le monopole. Mais voilà.
Comme Jorge Mendes avec le Real Madrid ou Valence. Mais il n'y a pas un monopole.
Mais il conseille le président. Tous les présidents sont conseillés par des agents.
Mais dans la tribune, il se comporte comme un président.
Autant le salarié, alors.
Il n'est pas interdit d'avoir le monopole d'un club.
Pas si vous êtes agent de joueur.
Pas si vous êtes agent de joueur, il est agent de joueur toujours.
D'accord, très bien, mais il n'a pas le titre officiel de directeur sportif du FC Nantes, Philippe Audouin.
Non, mais je suis d'accord pour dire qu'il ne travaille qu'avec Moji Bayat.
Oui, d'accord, mais répondez aux questions factuelles. Est-ce qu'il a le poste de directeur
évidemment pas, mais voilà. Évidemment pas, mais officieusement, effectivement, c'est lui qui dirige la politique sportive du club en termes de recrutement.
Voilà. Donc, ce que voulait dire Gilles, c'est qu'officieusement aussi à Nantes, il y a des agents qui travaillent quasi exclusivité à Nantes, à Monaco,
dans tous les clubs.
Et Mendes, c'est la même chose.
Oui, d'accord. Mais alors, Mendes déjà, il est puissant. Il a Cristiano Ronaldo.
Il ramène pas des clinches. Hein,
en général, il amène pas vraiment des tocards. Il a Falcao. Il a quelques bons joueurs. Moi, ce Moji, je le connais pas. Je ne sais pas quel est son carnet d'adresses.
C'est un carnet d'adresses belge, quoi.
Voilà. Bon, c'est pas forcément.
Je vous fais la liste. Aymon, Lee Bombay, demandez.
Stéphane, c'est des joueurs de Ligue 2.
C'est des joueurs très moyens.
Il suffit de faire le bilan. Regardez l'effectif de Nantes. Il y a encore 3-4 ans. Quand vous aviez Tatar Ousanou dans les buts, Diego Carlos en défense, Rongier au milieu, Salah devant. Aujourd'hui, ils ont été remplacés par qui, ces joueurs-là ?
Par les joueurs de Moji Bayat.
Voilà.
On peut entendre ce fonctionnement-là, c'est tout
Domènech
à fait audible. Je ne suis pas l'avocat de Kita, je constate néanmoins qu'il y met sa fortune personnelle. Je constate.
Mais c'est pas une raison.
On peut aussi lui créditer quand même. Je constate, Gilles en parlait, qu'il a voulu faire construire un nouveau stade, le Yellow Park, que c'est pour des sombres histoires politiques qu'il n'y est pas parvenu. Je constate qu'il voulait refaire le centre de formation du FC Nantes, qu'il n'y est pas parvenu. Je constate que Landreau arrive avec ses gros sabots bretons pour dire que lui, il veut tout révolutionner. On a vu ce qui s'est passé quand il était joueur à Nantes.
Si Valdemar Quita n'a plus aucun soutien sur le plan local, c'est peut-être qu'il y a des raisons, Christian. S'est mis tout le monde à dos ici. Qui sème le vent récolte la tempête. On ne peut pas s'étonner que la municipalité lui tourne le dos. Ce qui était même étonnant, c'est que la municipalité se lance aveuglément dans ce projet de stade avec Valdemar Quita.
Tout à fait.
C'était ça qui était surprenant.
Bon, ça nous permettra, à propos justement d'unanimité, de parler dans un instant de l'Olympique de Marseille. Toujours le temps additionnel, toujours un but partout, Philippe Audouin.
Toujours un but partout, effectivement. On est dans le temps additionnel et le jeu qui se cantonne en milieu de terrain.
On va tourner une page de publicité si vous le voulez bien. On va valider ou pas d'ailleurs le résultat entre Nantes et Marseille, et puis justement on ira à Marseille avec les clashs qui n'en finissent plus, et là la prise de pouvoir d'une certaine façon également, prise de pouvoir quand même des supporters de l'Olympique de Marseille. Vous me direz ce que vous en pensez après ceci.
Pas encore.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match avec Philippe Sanfourche, RTL, Dominique Sévrac, le Parisien aujourd'hui en France, le procureur Gilles Verdez et Stéphane Powels. Match terminé à la Beaujoire, un but partout. Entre le FC Nantes et le...
Pas encore, Christian.
Ah bon ?
Et non, Hiroki Sakai est expulsé côté marseillais pour un pied haut et coup franc à suivre pour les Nantais, mais dans le rond central. Je trouve l'expulsion directe un tout petit peu sévère, mais en tout cas, Marseille qui va jouer les toutes dernières secondes, puisqu'on est au-delà du temps additionnel, à 10 contre 11, coup franc à suivre pour nous.
Nantes.
Mais j'avais cru que le match, effectivement, était terminé. Donc, Sakai à 10 contre 11, ben, on a largement passé le temps additionnel, Philippe Lannan.
Mais oui, puisqu'on perd beaucoup de temps avec cette histoire.
Ben oui.
Et on est au-delà des 3 minutes de temps additionnel.
Est-ce que c'est un bon résultat, tiens, pour Nantes à domicile, malgré la perte des 2 points, mais contre l'Olympique de Marseille?
Ah, ça permet quand même, après la victoire à Angers, il y a 8 jours, d'entretenir une forme de dynamique. Et puis, compte tenu du niveau du match, j'ai envie de dire, c'est un résultat équitable.
Équitable.
Équitable. et les Nantais peuvent juste avoir un regret après avoir ouvert le score, mais de façon un peu plus qu'heureuse, puisque c'est Mandanda qui a offert le but aux Nantais. Attention au coup franc quand même, qui peut donner l'occasion aux Canaries, pourquoi pas, d'arracher la victoire. Le ballon dans la surface de réparation s'est dégagé par la défense marseillaise et ça va se terminer sur ce score d'un partout. Voilà, c'est terminé à la Beaujoire. Score équitable avec l'ouverture du score, donc sur une énorme erreur de Mandanda, signé Blas pour Nantes après 5 minutes en deuxième période, et égalisation de Payet à 20 minutes de la fin.
On peut quand même souligner.
On va d'abord remercier Philippe Audouin.
Bien sûr.
Et on va lui donner rendez-vous à partir de 20h. Un gros décryptage et réaction évidemment dans le RTL Foot, nouvelle formule du samedi soir. Merci Philippe.
C'est justement parce que je ne voulais pas le congédier, je voulais rebondir sur ses propos et sur le fait qu'effectivement, Mandanda, c'est une énorme bourde, elle va passer en boucle et tout le monde va. Mais il faut regardez les 30 secondes qui précèdent le but
terrible,
que
Philippe.
Prend Marseille. On a l'impression de voir un match mais de corpo.
CFA
ça va à 2 à l'heure. Il n'y a pas un déplacement.
Tout
les joueurs
se
donnent le ballon à 20 mètres des buts. Les Nantais, qui n'étaient pas sortis de leur cage là, depuis le début, là, se disent mais ils font n'importe quoi. Il y a quand même un moment si on les presse un peu. Et c'est exactement ce qui se passe. Ouais. Et donc Rongier donne un ballon, une saucisse absolue
incroyable.
À Mandanda, incroyable. Ouais. Qui se trouve effectivement sur son dégagement. Mais c'est une œuvre collective. Mmh. Et là, moi je pose la question parce que j'entends dire... Il est formidable, hein, Nasser Larguet. Hein. Il calme tout le monde. Il a un parcours qui est inattaquable. Mais est-ce que ce monsieur a la dimension pour faire vivre l'OM et pour faire que l'OM redevienne ce qu'il doit être, c'est-à-dire une équipe conquérante? Il y a écrit droit au but sur le maillot. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois une équipe de fond de classement de Ligue 2. Là,
ouais,
c'est consternant. C'est consternant. Le niveau de jeu de l'OM en ce moment, c'est quand même une équipe qui était en Ligue des Champions.
Il a un héritage, Philippe. Il a un héritage de AVB qui faisait très très mal jouer son équipe. Et puis tu peux pas lui imputer les résultats. Là, il ne veut pas tout transformer.
Je ne lui impute rien. Je dis juste que j'entends une petite musique qui dit bah, finalement, ce n'est pas si mal, il faut terminer la saison comme ça, et ça va bien se passer.
Pas la saison. Je pense que l'Olympique de Marseille, sur le terrain, essaie d'expédier les affaires courantes en attendant la venue de
Sampaoli.
Oui, mais vous avez toute une frange du club et des suiveurs qui estiment que ça pourrait terminer tranquillement la saison comme ça et que Sampaoli ne viendrait que la saison prochaine.
Vous avez des joueurs qui ne se parlent plus. Un président qui ne préside plus, des supporters, on va y venir, qui dirigent le club, et c'est très bien, je les félicite. Il n'y a plus rien à Marseille. Villas-Boas et ses sbires ont tout cassé avant de partir. Oh. Le pauvre Nasser Larguet voulait qu'il fasse quoi? Et alors à ce moment-là, attribuez-lui la déroute sur le premier but, parfait, attribuez-lui le chef-d'œuvre de Payet. Cette reprise magnifique qui fait un but de classe internationale,
ah bah
c'est
oui.
Peut-être lui. Non mais à ce moment-là,
c'est
le
vrai.
L'objectif. Il y a une seule action de classe dans le match, un match pourri, une seule action.
85 minutes à dormir.
Non mais attendez. Non mais attendez. Excusez-moi.
Payet sera ballon d'or avec
Gilles. Non non mais attendez. Moi je veux bien. On va dire les choses vraies. Que dites-vous? Que Villas-Boas a tout cassé. Mais c'est n'importe quoi. Villas-Boas, il a fait le boulot avec les moyens qu'il avait. Alors il a peut-être fait des erreurs.
Les joueurs se parlaient plus entre eux.
L'erreur, faut demander pourquoi on a donné un contrat comme ça de dingue à Payet qui n'en touche pas une. Excusez-moi, qui en touche
il
pas une.
Il a marqué un chef-d'œuvre.
Mais je m'en fous, il a dormi pendant 83 minutes.
Bah,
et il dort depuis 2 ans. Ah bah, les chefs-d'œuvre, je vous en sortir plein.
C'est réveillé au bon moment, c'est Picasso.
Je connais des chanteurs, ils ont fait un single et le reste, leur carrière était rappée. Et Payet, ils ne foutent plus rien depuis 2 ans. Cette équipe est moyenne. Il faut dire les choses, je rejoins Philippe Sansfourche. C'est une équipe de colonne de droite. C'est une équipe faible. Et on est en train de demander des miracles à cet entraîneur, à ce monsieur qui essaye de là de s'en sortir.
Bah oui.
Et l'autre, c'est pas Harry Potter. Hein, il va pas te sortir des trucs de son chapeau. Alors attendons l'avenir. Mais moi, je pense que les fautifs et les supporters de Marseille, ils ont raison. C'est que les fautifs, ce sont les dirigeants de ce club. Et depuis 3-4 ans, ils font n'importe quoi. Leur projet ne veut rien dire. Ils font des joueurs moyens. Il n'y a aucune cohérence, aucune politique sportive de ce club. Il faut dire les choses. Il faut arrêter de charger André Villas-Boas inutilement. Il n'a peut-être pas été parfait, mais il faut arrêter de dire que c'est de sa faute. Hein.
On descend en température. L'Olympique de Marseille est-il définitivement un club à part? C'est la question générique, mais il y a plein d'autres questions.
Non.
J'ai envie de vous poser aussi
un club à part.
Non,
ce qui est à part, c'est Jacques-Henri Hérault.
C'est un financier à Marseille qui n'a aucun affect pour le foot et aucune passion pour l'Olympique Marseille. C'est lui là qui est à part. Moi, l'environnement, qui est de la passion, qui est des supporters qui prennent la parole, j'ai vu ça depuis toujours. C'est pas un club à part. C'est un club, c'est une ville foot, comme il y en a peut-être pas beaucoup en France, mais je suis sûr qu'on pourrait dire ça de Lens, je suis sûr qu'on pourrait dire ça d'une partie de Bordeaux, je suis sûr qu'on pourrait dire ça.
Mais on peut pas.
Lance sa vie pour le foot. Oui,
mais enfin, je veux dire, c'est là quand vous voyez ce qui s'est passé avec les supporters qui tiennent une conférence de presse.
Parce que les stades sont fermés, parce que c'est huis clos. Si vous aviez des matchs comme d'habitude tous les 15 jours au Vélodrome, il y aurait des banderoles, ils s'exprimeraient et vous n'auriez pas eu la conférence de presse. Ça, c'est dû au Covid. C'est un peu ubuesque parce qu'il y a le Covid, parce que ça fait un an qu'ils ne s'expriment plus dans les stades.
Elle est impressionnante quand même cette photographie des supporters qui sont alignés autour d'une table avec des gros bras derrière. Moi, j'ai eu des résurgences.
Vous préférez les démonstrations.
J'ai eu des résurgences de quand même de clichés à des époques. Un peu particulière qui concernait pas notamment le football.
Voilà. Mais là c'était pacifique.
Et le confinement, je vois très bien.
Bon,
Christian, vous voyez bien que le couvre-feu et le confinement exacerbent les relations humaines en général, pas spécialement à Marseille. Il y a une tension dans la société française qui est décuplée, même dans la société belge ou dans les sociétés européennes, parce que on se voit moins, il y a moins d'interactions sociales. Donc essayez de mettre ça sur ce plan-là. Mais pour moi, le vrai problème, c'est un homme qui arrive avec un projet fou, l'espèce de Champions Project qui n'existe pas, et en tout cas qui ne peut pas exister avec 200 millions d'euros, c'est pas ça l'idée. On ne peut pas être champion de France quand il y a le PSG avec 200 millions d'euros qu'on répartit en 4-5 ans pour aller chercher Payet et Mandanda.
Ça n'existe pas.
Et qui en plus a un mépris pour les locaux. Dès qu'il ouvre sa bouche, Jacques Henriero qui a fait des grandes études, c'est pour mépriser les gens. Ce n'est pas possible.
Quel mépris ? Sur quel constat ?
Le mépris, c'est la façon dont il parle, c'est la façon dont il manage, c'est la façon dont il ne s'entoure pas de Marseillais, c'est la façon dont il leur parle quand il dit
vous savez
ce club-là, il y a trop
de... Parc des Princes, au PSG, on a eu des présidents aussi structurés de cette façon.
Paris, c'est pas la même mentalité que Marseille.
Laurent Perpère. Vous avez vu les résultats à l'époque ? Une catastrophe.
À Rennes, ça a été la même chose aussi.
Avec
Son nom m'échappe.
René Rubello.
Après René Rubello.
Olivier Létang.
Ça va me revenir.
Ah. En tout cas, vous faites référence à des périodes qui ont bien fonctionné pour ces clubs. Donc c'est bien qu'il y a un vecteur commun. Moi, votre question, c'est est-ce que c'est un club à part ? Alors, la manière peut-être de manifester les choses est typique de cet esprit, de cette effervescence, de cette ferveur marseillaise. Mais moi, je trouve que ça traduit quelque chose de plus large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Marseille, on est un peu les porte-parole d'un ras-le-bol général. Mmh. C'est-à-dire que, comme disait, les trucs marketing, l'expérience match, moi j'en peux plus d'entendre parler de ça. L'expérience match, ça veut rien dire. On va au match, on fait pas une expérience match.
On est
en train de nous vendre la soupe alors qu'on veut du foot.
Saint-Cernin.
Prenez de Saint-Cernin.
Ah oui, c'est en train de chercher aussi.
Saint-Cernin, qu'est-ce que je vous dise ?
Avec Pierre Grossi, des technocrates.
Non, publicité. Derrière la pub des informations de 19h, et on va bouger un peu le conducteur, on va rester sur l'actualité marseillaise avec la parole à Gilles Verdez, ses premiers Gilles, et ensuite quelle issue également pour l'Olympique de Marseille, quelle sortie de secours pour Jacques Henriero, et quelle.
Mais qui s'en aille ?
Et quelle solution ? Que fait-on ? La publicité, Boris ? C'est parti pour la publicité.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
19h, bientôt 5 minutes, on refait le match jusqu'à 20h, 20h, 23h, RTL Foot, nouvelle formule, sans match de Ligue 1 le samedi soir, mais avec toujours autant de belles surprises et de nouveaux rendez-vous, 20h, 23h sur l'antenne de RTL. On fait le match, Philippe Sanfourche, Dominique Sévrac, Gilles Verdez et Stéphane Powels. On parlait de l'Olympique de Marseille en vous rappelant que Marseille est allé prendre un point à Nantes, c'était le match de 17h qui s'est terminé juste avant 19h. Un but partout entre les deux équipes, le match de 13h, même score, un but partout entre Saint-Etienne et Reims, et le match de Ligue 2 de l'après-midi. Midi a vu l'équipe de Troyes aller faire match nul à Valenciennes, 2-2. On en était donc à l'Olympique de Marseille, prise de pouvoir des supporters, et Gilles Verdez s'en réjouissait.
Oui, bien sûr, j'avais dit ici la dernière fois que j'étais venu à votre antenne que Marseille, c'était génial, appartenait aux supporters. C'est pour ça que c'est un club à part et que vous faites erreur. Marseille appartient aux supporters, qu'on le veuille ou non, on peut en débattre, mais c'est la réalité. C'est pour ça que le président Héro n'a aucune légitimité, c'est pour ça que c'est formidable que ses supporters, en randonnion, tous unis, ce soit mis ensemble pour dire on en a marre, on veut le pouvoir.
Elle vous a pas gêné cette photo ?
Non, je vois à quoi vous faites écho, mais non, parce que moi, c'est la manifestation de ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire que Marseille appartient à ses supporters. Et le problème, c'est comme c'est pas un club structuré comme Barcelone ou un club qui appartient aux socios, c'est pas effectif. Mais tous les présidents qui n'ont pas entériné le fait que le pouvoir devait être partagé ou donné aux supporters, ils ont sauté. Donc le président Hérault, il va dégager pour cette
c'est
raison-là.
C'est une prise de pouvoir, c'est une démonstration de force quand même, le cliché des supporters ouais, mais... qu'on voit tenir conférence de presse.
Ah bah oui, c'est faux, démontrer
c'est
sa force.
Terriblement dangereux. Ça veut dire que moi, je suis complètement d'accord avec Dominique Sévrac, que M. Hérault n'est pas à sa place. Et c'est un club différent parce que c'est un club qui a forcément beaucoup d'empathie avec une sensibilité, avec des supporters, une région aussi où on a le sang chaud, mais c'est un club qui a une histoire et donc forcément c'est un club où on a une perception différente que certains clubs, je prends l'exemple de Rennes ou de Lille même, moi qui mon cœur est lillois, où on est plutôt dans, on est moins dans l'euphorie et dans l'humain, c'est qu'un club qui est très humain, mais par contre où je suis Gilles, je pense que où c'est dangereux c'est quand on laisse, la photo moi m'a pas plu, quand on laisse la liberté d'expression. Elle me plaît celle-là, mais la liberté d'expression agressive où on essaye de créer une espèce de tension pour essayer de faire basculer les dirigeants du club, je trouve qu'il y a un danger. Je ne dis pas que les supporters de Marseille sont excessifs et tous des voyous, je dis que ces attitudes, cette minorité qui essaye de à la fois donner des mauvais messages, je pense que ce n'est pas un bon message pour le foot, c'est un point de vue personnel.
La rupture est totale, Christian. La rupture est totale parce que vous avez une tribune dans la Provence qui dépasse les supporters avec des intellectuels, des artistes. Mais ça dépasse.
Je la montre à la caméra. Voilà la une de la Provence. C'était donc vendredi. Mm-hmm. C'est un dossier très solide.
Et c'est pour ça.
Fait par nos amis de la Provence, de 4 pages, mais initié par la Provence. Nous sommes bien d'accord.
D'accord. Mais la tribune.
Ce ne sont pas comme ça les amoureux olympiques de Marseille qui ont appelé au fur et à mesure et à la queue leu en disant si on montait une tribune.
Mais le journal se fait l'écho d'une révolte populaire parce que le journal est ancré dans la société.
Mieux que ça, dans cet excellent dossier, mais qu'on ne verrait peut-être pas de la même manière dans La Voix du Nord ou dans Presse Océan, si vous voyez ce que je veux dire. S'il y avait une crise à Lille ou s'il y avait une crise à Nantes. Moi, je lis sous la plume d'Alexandre Jacquin.
On a déjà vu ça dans Le Parisien, à différentes époques.
Mais c'est Paris, quoi.
Justement, nous, on nous reproche de ne pas être assez supporters.
Sous la plume d'Alexandre Jacquin, souvenez-vous des incidents qu'il y avait eu à la commanderie il y a 2 semaines de cela maintenant.
Deux semaines, trois semaines.
C'est-à-dire qu'Alexandre Jacquin laisse entendre qu'il y aurait pu y avoir une volonté délibérée de laisser se dégrader un climat déjà délétère et qu'il y aurait eu donc un manque d'anticipation et qu'on aurait quasiment, du côté des dirigeants de l'Olympique de Marseille, laissé faire. C'est grave.
C'est un grand classique. Hein.
C'est grave.
C'est un grand classique.
Vous
n'aurez
pas échappé. C'est grave. Christian, c'est grave. Souvenez-vous, lorsqu'il y a
ça
eu...
Ça s'appelle la complicité.
Les images assez terribles de violence à la commanderie et qui sont évidemment condamnables de quelques bords qu'on se trouve.
Et d'ailleurs, elles sont dans l'ensemble condamnées par tous. Hein.
Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la foulée, ici même, sur RTL, 2 heures après? La préfète était en direct, en train d'expliquer le processus qui allait être mis en place, où on sentait bien que tout est dans les tiroirs. Tout est prêt pour un plan Le Prou façon Marseille, avec la dissolution des associations, et on est en train de voir que c'est en train de se peaufiner, de se mettre en place, avec une nouvelle politique publique, le retour des familles, tous les trucs qu'on a entendus par cœur.
Ça s'intitule l'Agora OM.
Par cœur, voilà. Vous pensez que ça a été pondu en 3 jours, l'Agora
non,
OM? C'était déjà prêt. Et en fait, il y a des dirigeants, je ne dis pas peut-être tous, mais qui n'attendaient que ça, c'est-à-dire la petite étincelle, avec des débordements pour pouvoir condamner et légitimer le changement. Aujourd'hui, je trouve que cette manière de se structurer, de faire des conférences de presse avec peut-être des couleurs de pantalon qui ne vous plaisent pas, mais ça, c'est quand même à la marge. Là, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de fait délictueux. Donc, on est dans une expression populaire qui est encadrée et qui, à mon avis, a beaucoup plus de chances de porter ses fruits que ce qu'on a vu à la commanderie. Mais pour conclure sur ce sujet-là...
va continuer encore quelques instants.
Je veux revenir sur ce concept. Je trouve que ce qui se passe aujourd'hui à Marseille est une mise en lumière d'une dérive du football. Aujourd'hui, le projet du Paris Saint-Germain, il y a combien de clubs qui peuvent le faire? Si vous faites venir Neymar et Mbappé, vous pouvez vous permettre de mettre de côté peut-être un peu d'histoire, une certaine frange de la population, de changer les choses, d'augmenter les prix, de faire du marketing, de faire de l'Instagram dans le monde entier.
Mais pas là.
Ok, mais qui peut le faire? Paris? Manchester City? Vous avez 10 clubs dans le monde qui peuvent le faire. Tous ne peuvent pas le faire. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, à Lille, à Bordeaux, à Nantes, à Marseille, à Saint-Etienne, il y a des révoltes populaires partout parce qu'on est en train de leur vendre des saucisses, là, des biscuits, des machins, le projet machin. Ça ne peut plus exister. Il faut revenir au projet sportif.
Bon, alors effectivement,
au foot.
L'Agora OM, c'est un nouveau process pour employer, des termes.
On a marre des process, je vous le dis.
Pour solliciter les supporters afin qu'ils adhèrent à une autre forme de supporter. consumérisme, on va dire.
Voilà.
Plus en famille, plus consommateur.
Tu payes, tu t'aides.
Et moins indépendant.
Tu viens, tu payes, tu t'aides.
Et si les associations, il y a encore 6 associations à Marseille qui n'adhèrent pas à ce projet, la direction peut couper.
On ne veut plus des racines populaires.
C'est dehors, plus de ces associations dans les clubs. Ce qui est déjà dans le stade, ce qui est déjà arrivé avec les Yankees il y a 2 ans. Quoi.
Ouais. On ne veut plus des racines populaires.
Non, non, mais j'explique pour les gens qui. Voilà, Gilles Verdez.
Ce qui ne fonctionnera jamais. Ce plan est déjà condamné avant même d'être...
Il a fonctionné au PSG. Hein.
Alors voilà, Philippe en parlait. Mais pourquoi il a fonctionné au PSG ? L'immense différence, et heureusement qu'il y a cette différence extraordinaire, c'est qu'il y avait eu des drames à Paris. Drames humains. Il y avait eu des morts. Voilà. Le plan Le Prou avait pu entrer avec le soutien des pouvoirs publics en lice, avait pu être effectué parce que la situation au parc... autour du parc n'était plus tolérable pour la société française.
Parfaitement.
À Marseille, c'est totalement l'inverse. On veut éliminer les strates populaires au nom de projets immobiliers gigantesques, américains, etc. Mais qui vont faire que la rupture va être, Philippe le disait, non seulement totale, mais que qui va gagner ? Mais heureusement,
mais attendez,
ce sont les supporters, avec le soutien de tout le monde.
Les
supporters vont gagner. Donc le Agora projet,
mais
la
que
poubelle.
Que veulent les supporters de l'Olympique de Marseille ?
Le pouvoir.
Ah, le pouvoir. Ils veulent le club.
Le pouvoir, ça me paraît quand même dangereux.
Mais ils veulent être chez eux au stade. Alors, c'est chez eux. C'est
un autre pouvoir.
Quel autre pouvoir ? Un actionnariat fort. On ne va pas retrouver... par tomber avec l'actionnariat de M. Leclerc des années 60-70 quand il était propriétaire de l'hebdomadaire ou du billet hebdomadaire.
Il y a deux choses.
Vous aurez un autre actionnariat américain.
Christian, ils ont laissé faire Robert Louis Dreyfus et Margarita Louis Dreyfus. Ils n'ont pas empêché la gestion de Robert Louis Dreyfus ni de Margarita quand même, il me semble.
Le problème de quand on a un regard extérieur, même d'un autre pays, c'est le côté historique. C'est-à-dire que, en plus, je reviens à ce que Philippe me dit sur les échauffourées qu'il y avait eu la dernière fois, on a vu, et Dieu sait, on sait aussi pourquoi avec sa maladie, on a vu M. Tapie partout. Et tout ça n'aide pas, parce que, un grand respect de M. Tapie, on a vu M. Tapie partout, parce que tu as l'impression de l'extérieur que l'OM, ils n'ont pas... Vous avez l'impression que depuis cette période de Tapie, jusque maintenant, il n'y a rien qui a existé. Et les supporters restent avec ça. Ils restent dans leur tête en disant, on n'a plus eu un grand président, même M. Dreyfus, ils n'ont jamais connu. Non, mais ça veut dire qu'à un moment, ils sont dans un ras-le-bol. Et ils sont dans un ras-le-bol et ils veulent s'approprier le pouvoir. Sauf que où ils se trompent, c'est que si les supporters pensent que c'est eux qui vont changer la donne du mode de fonctionnement de l'Olympique de Marseille, ils se trompent, et émotionnellement peut-être, humainement peut-être, mais il y a de la stratégie.
Grand respect pour Marc Tapie, il a quelques casseroles quand même, il a été condamné.
Ils ont gagné la Champions League.
Il a acheté des matchs.
Ont gagné la Champions League.
Un grand respect, t'as tout à fait le droit.
Je veux te dire que les supporters...
T'as le droit d'avoir le reste, t'as le droit d'avoir... Il y a un match qui a été découvert par la justice.
Les supporters...
Il y a un match découvert par la justice.
C'est pas ça que je veux te dire, c'est que les supporters restent sur ça.
On est obligé de te dire que c'est quand même quelqu'un qui a fait de la prison pour des matchs achetés, pour un match acheté, pour un match qui a été jugé par la justice.
Dominique, c'est pas là mon point de vue. Mon point de vue, c'est pour te dire que les supporters dans leur tête, il y a eu un grand président.
C'est pas un héros.
Et derrière, héros, c'est pas le bon mot, quoi. Mais c'est pas un héros. Non, mais ils attendent autre chose.
Par exemple, Pape Diouf n'est pas resté dans le cœur des supporters, parce que c'était pas avec peut-être des ambitions moindres et des moyens qui n'étaient pas au même niveau.
Tu crois qu'il n'était
pas représentant de ce qu'est le club de l'Olympique de Marseille?
Ils en ont marre. Ils en ont marre, ils ont l'impression, ces supporters, qu'il n'y a rien qui bouge et qu'on les endort, ce que tu as dit tout à l'heure. Et donc, il y a un moment où je ne suis pas d'accord avec Gilles, c'est que je comprends qu'ils revendiquent ces supporters, mais s'il vous plaît, ne laissez pas la carte du club aux supporters. Vous allez prendre le mur.
Quelle issue ?
Vous allez prendre le mur.
Non, quelle issue ? Quelle issue ? Quelle issue ? On revient à un petit actionnariat pour vivoter, ou on accepte, parce qu'il va falloir l'accepter, d'accueillir un nouvel actionnariat, qu'il soit américain, pourquoi pas moyen-oriental, et il faudra bien. Voilà, quelle issue ?
Le vendre, il y a des banques en France qui sont chargées de vendre des clubs.
Qui va acheter ?
Bon, je sais pas, Macron, vous le connaissez.
L'acheteur, l'acquéreur potentiel qui va acheter.
Il y a toujours un milliardaire quelque part qui s'ennuie.
Alors, ça se vend.
Pour un investissement et pour une politique à court termiste. Parce que quand on voit ce qui se passe actuellement à l'Olympique de Marseille, si vous avez la fibre du foot et si vous aimez quand même, si vous êtes supporter de l'Olympique de Marseille, mais que vous engagez vos fonds propres, vous vous dites, je réfléchis à deux fois quand même. Donc celui qui ne veut pas réfléchir à deux fois, mais qui va acheter l'Olympique de Marseille, c'est pour faire une bonne affaire.
On peut s'y prendre autrement, on peut avoir de l'argent et ne pas mépriser les gens et les associer dans la direction. Héros, il fait comme si les gens n'existaient pas. Ça n'est pas possible.
C'était pas difficile.
Franchement, Marseille, c'est pas un club compliqué. Il suffit de
suffit d'être là. Monsieur McCourt, il est au fin fond des États-Unis. Il n'est jamais là. L'actionnaire principal n'est pas là. Et il a mis monsieur Héros, qui est spécialiste des chevaux, j'adore, mais qui est spécialiste des chevaux à la tête du club. club qui ne comprend rien à rien, dont personne ne veut. Ce tandem-là, qu'on le mette dehors et qu'on refasse un actionnariat.
Vous faites marrer, il faut qu'on le mette dehors. C'est un club qui doit être valorisé quand même, malgré la crise, à 350, 400 millions.
Mais moi, je vais vous dire.
Et vous avez, la mairie, qui veut, et vous avez la mairie qui veut mettre encore, qui veut vendre le stade pour encore 300 ou 400 millions. Qui va mettre 800 millions en,
Mais c'est pas 800 millions.
300 ou 400 millions le oui, club, 300 ou 400 millions le stade.
Pourquoi ils font ça en ce moment? C'est pour que M. McCourt dégage à l'aune de ces sommes faramineuses et que la mairie n'est pas bête. Elle sait que c'est fini le projet McCourt. Donc M. McCourt, s'il nous écoute, il a le choix. Soit il vend là, tranquille, sans faire de bénéfice, soit il va tout perdre parce qu'on va lui prendre son club. Les supporters vont lui prendre son club.
Il n'a jamais été question qu'il soit là pour 20 ans, hein, pour 30 ans. Hein. Il a toujours été question qu'il soit là pour 5 à 7 ans. Hein. C'était comme un fonds d'investissement, comme le capital. Attendez, hein. C'est la même logique.
Il y a très peu d'investisseurs en France qui sont là pour une période extrêmement longue. Vous avez Pinot à Rennes, on a parlé de Rennes tout à l'heure. Mais je veux dire, quel est le club qui...
Le Qatar, ça fait longtemps quand même. Non, le
Qatar,
ça fait 10 ans.
Christian, il y a un truc où je ne suis pas d'accord avec vous. Pardon Dominique, il y a un truc où je ne suis pas d'accord avec Christian, c'est quand Christian minimise la vraie valeur du club de Marseille. Je pense que ce club, malgré tout ce qui se passe, est quand même un club pour des financiers qui ont beaucoup d'argent dans le monde. T'as quand même plus envie d'acheter l'Olympique de Marseille. Et avec grand respect, vous savez que mon cœur est lillois, que le LOSC, en termes d'image, ça reste un club qui représente quelque chose.
Ça se calcule.
Et je suis d'accord avec Gilles
ça
aussi.
Ça se calcule, carrément.
Je suis d'accord
parce
avec
qu'on
Gilles.
A beau aimer le football, on compte ses sous également.
Christian,
on a
suis d'accord avec Gilles qu'il y a un jeu qui se fait en ce moment pour essayer d'écœurer McCourt et que s'il y a un vrai investisseur qui vient pour avoir un nouveau projet, la mairie va certainement être un petit peu plus à flux tendu et d'accepter des... Ce club de Marseille fait toujours rêver des investisseurs.
On a l'exemple de Priant. On avait Nantes et Marseille qui jouaient, un but partout pour ceux qui nous rejoignent, pour un investisseur qui veut mettre des billes,
parce que vous avez vu
investir
un bois,
et faire progresser un club, vous prenez moins de risques à acheter Nantes qu'à acheter Marseille.
Hein. Ah non, mais vous rigolez. Mais qui va
Marseille, mais le potentiel n'est pas le même.
Non, Marseille est un club qui a gagné et qui regagnera la Ligue des Champions. Nantes, il va falloir me
le prouver. La barre du management n'est pas très haut, donc c'est pas très difficile
de faire mieux. Hein.
Après Kita et après Héros, c'est pas très difficile.
Facile à dire, hein, quand c'est pas notre argent, là, on se balance des
millions d'euros. Non, mais Marseille est quand même un club en termes de marketing,
Paris,
de marchandising.
Paris a fait des erreurs. Hein. Prendre Antero Henrique, c'était n'importe quoi. Parce que vous avez de l'argent, vous avez toutes les bonnes idées. Mais Leonardo, c'est quand même mieux qu'Antero Henrique. Quand vous avez quelqu'un qui incarne le club, qui a des idées, qui a un réseau et qui vous prend
c'est
des
plus
bons
facile.
Joueurs, c'est plus facile. Le foot, c'est des compétences, c'est pas que de l'argent. Évidemment, c'est mieux si vous avez un gros carnet de chèques.
Bon,
mais monsieur McCourt, non seulement il n'a pas beaucoup d'argent, et il prend des mauvaises personnes.
Non, mais
ça commence à faire beaucoup.
Si je peux rebondir sur Antero Henrique, comment vous donnez là aussi les clés moi je l'ai connu, il était scout à l'époque, il était tout jeune. Les clés d'un club comme l'Olympique de Marseille, il y a un gamin de 30 ans, avec un club qui a une histoire pareille, il faut arrêter les conneries
les amis,
aussi.
Vous ne me donnez pas les solutions, Sampaoli visiblement tient la corde. J'ai lu et j'entends que
il restera un an et demi,
il va pas jouer
deux ans. C'est pareil ça.
J'ai lu et entendu qu'Abid Bey voulait maintenant se lancer dans le grand bain.
Sampaoli, pourquoi pas, parce que le côté argentin, chaud bouillant, les tatouages et la filiation Bielsa, ça peut plaire.
Oui.
Mais à partir du moment où la direction explique que le profil du prochain entraîneur, ça doit être un fondateur.
Un bâtisseur.
Prends un mec comme ça.
Et
c'est
tu prends Sampaoli. Le mec, il a fait 18 clubs en 14 ans. Il n'en a pas fait un. Il a fait Séville un an. Sinon, tout le reste, c'est que des références sud-américaines.
Mascarade.
Donc, en fait, ça colle pas. Ça colle pas.
Ils nous ont encore dit des saucisses. Ou alors, ils ont dit des choses pour les caméras qu'il fallait un bâtisseur. Et ils vont faire le contraire.
Mais les saucisses, ça, c'est une paire de boîtes qu'ils nous mettent depuis des semaines.
Est-ce que s'ils sont incompétents?
Mais prenez Abid Bey. C'est ça le vrai projet.
19h19. On a parlé de Marseille et de Nantes depuis 18h30. On a parlé un peu du Paris Saint-Germain, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Ne me parlez pas de remontada, s'il vous plaît. 19h19.
RTL, on refait le match.
La Ligue 2, c'est de mieux en mieux, vous le savez.
Oui.
Et ça a démarré depuis 19h, Baptiste Durieux.
Oui, vous m'entendez?
Oui, parfaitement.
Merveilleux. C'est de mieux en mieux. Par contre, Christian, il y a 0-0 sur toutes les pelouses. Je suis désolé. 0-0 entre Nancy et Ajaccio et Clermont, entre Amiens et Sochaux, Chambly, Auxerre, Le Havre, Dunkerque, Nancy, Grenoble, Niort, Pau, Paris FC, Châteauroux et Rodez, Toulouse. À noter également que le leader 3 a fait match nul de partout contre Valenciennes.
Et sur le compte Twitter @RTLFoot.
Beaucoup de messages évidemment avec le hashtag TeamOM, toujours extrêmement actif. Ludovic Jacquenriro est une personne qui est à l'origine d'Euro Disney. Donc ne soyez pas naïfs. Ce qui se passe à Marseille n'a rien de surprenant. C'est Space Mountain, le train de la mine et la maison hantée. Ce club, c'est la suite logique tout simplement. Message d'Alexis. Oui, c'est un club à part. part en Ligue des Champions, dans le classement de Ligue 1, dans le jeu, dans la moyenne du poids et de la condition physique des joueurs, à part dans la direction également, dans la gestion et tout le reste. Évidemment qu'il est à part, ce club. Message de Damien qui est assez marrant, qui nous dit: Jean-Paul Sartre disait au football, tout est compliqué par la présence de l'équipe adverse. Et moi, je dis qu'à Marseille, tout est compliqué par la présence de Jacques-Henri Hérault, tout simplement. Et message de Laurent qui remixe encore une citation: le football est un jeu où 22 personnes courent, jouent avec un ballon, où une direction fait une quantité astronomique d'erreurs et à la fin, les supporters perdent encore et toujours.
Merci Baptiste. On parlait de la Provence qui appartient à Bernard Tapie d'ailleurs, hein, mais le dossier excellent de 4 pages. Je voudrais aussi citer quand même je vais essayer de le retrouver, la une de la Marseillaise, la une de ce jour, avec OM face au mépris d'Hérault, front uni des supporters. Voilà, je vais montrer la caméra également.
Les mots sont dits.
Le Paris Saint-Germain, vous avez vibré, vous avez continué de rêver maintenant d'une victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions.
Bah, écoutez, il y avait un côté sinistros qui était revenu au nouveau de la peur, comme aurait dit Kylian Mbappé chaque fois que les huitièmes de finale reviennent, parce qu'il manque toujours un Cavani, un Neymar. Bon là c'était et Neymar et Di Maria, et on a vu la démonstration éclatante de à la fois de la patte Pochettino. On a vu le meilleur match européen sous les couleurs parisiennes de Kylian Mbappé, notre futur ballon d'or.
Donc
évidemment, c'est une super semaine.
Breaking news, stop. Vous lui avez mis 10 sur 10.
Exactement.
Non, mais ça va pas à la tête.
Il y a une note technique et il y a une note émotionnelle. Ah bah si pour vous, le foot, c'est pas aussi des émotions, si vous n'avez pas vibré à chaque but de Kylian Mbappé, le foot, c'est pas que des gestes.
10 sur 10, la perfection n'existe jamais.
Ah bah alors, ce compte-là, le baril, il va de 0 à 10.
On met jamais. Vous notez de 1 à 9, alors Christian.
On met jamais 10.
Moi, j'ai rigolé.
Ça sert de jauge, le 10. Le 10 sert de jauge.
Vous n'êtes jamais, si j'ai bien compris.
9 sur 10, si, je vais vous dire. Et d'ailleurs, il y a un des joueurs que vous avez interviewé dans Le Parisien qui vous l'a fait remarquer. Vous mettez 10 quand c'est du niveau de ce qu'a fait Mbappé, mais avec un titre à l'arrivée. Avec une compétition de gagner.
Excellent.
Avec une compétition de gagner.
C'est-à-dire que vous pondérez la note à l'aune du match. D'accord. Quand vos enfants vont à l'école, ils sont notés en fonction de l'importance de l'épreuve, de la nature du cursus, du pédigré de la prof, des notes de leur...
Non, mais
il n'y a plus de valeur absolue d'une note. Mais... Elle n'est établie qu'à l'aune d'un contexte.
Je vous la donne, la note absolue 10 sur 10, quand vous jouez comme Mbappé a joué mardi dernier.
J'ai bien compris ce que vous voulez dire.
Mais qu'il y a une finale de Ligue des Champions.
Une note n'est pas contextualisée.
Vous pas pinaillé pour un point, quand même.
Si je pinaille pas pour un point, pourquoi vous mettez 10 sur 10? Mettez 9.
Alors, parce qu'il y a une émotion. Christian, une émotion. On était parti sur 9 et on a dit, mais on a rien.
Bien sûr.
Donc, Christian, il y a eu débat quand même à la rédaction.
Évidemment. On était 4, on s'est regardé, mais on peut mettre 10 quand même.
Et il y en avait combien pour mettre 9?
Il y en avait 1 et on était 4 à
9. C'est Dominique qui décide, de toute façon, vous savez. Ça se passe comme ça. C'est Dominique Sévran et Dominique décide.
Non, mais Christian, il y a un moment, je vais jeter le pavé dans la mare, mais parce que là, on est, et je sais, avec mon ami Dominique, son petit cœur parisien et d'autres d'ailleurs, mais cette radio, RTL est écoutée dans toute la France. Donc à un moment, il faut être mesuré. Alors moi, je veux bien entendre, c'était effectivement un grand match, on a vu de belles choses, et bravo, contre un Barça complètement malade. Nous sommes bien d'accord
ça
aussi. Mais laissez-moi finir.
Bah, si,
par contre, je vais essayer.
On est obligé
contre un Barça complètement faible.
Alors,
je vais essayer, si je peux finir, si vous me posez la question pour aller au bout, et après, je le dirai une fois, pour aller au bout, moi, le football, ça reste un sport collectif. C'est ça la base du football. Eh bien, Neymar n'était pas là et Paris a montré que sans Neymar, M. Pochettino a fait une équipe qui a bien joué au football avec Mbappé qui a flambé pour une fois ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ma grande question est-ce que Paris va rester dans cet esprit de sport collectif pour gagner
note,
mais je vais vous dire, Paris ne gagnera pas la Champions League parce que Neymar va revenir. Parce qu'on va redevenir, on va focaliser sur lui.
Neymar est un problème.
Neymar est un problème pour moi parce que ce n'est pas un sport individuel, le football c'est un sport collectif. Vous n'avez pas gagné la Champions League, elle était nulle en finale.
Excusez-moi.
Mais ce final était une blague sans public, un sketch.
Oui, c'est comme ça aujourd'hui le foot, c'est sans public. Ça, c'est pas la faute du PSG, ça. Que Neymar est un problème pour aller en finale du Final 8, ça m'a pas sauté aux yeux. Mais bon, peut-être que je vois mal les matchs.
Il a pas touché un ballon en finale. Christian,
mais avant,
Christian, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Ce que vous avez dit sur la note m'étonne de vous. E égale MC2 est une théorie universelle.
Vous n'êtes plus au Parisien, Gilles. Vous n'êtes plus au Parisien, Gilles.
Je m'en fous, je ne savais même pas, je le lis pas, même pas qu'il avait mis 10.
Mais en revanche,
je sais que l'équipe a mis 9 et ça, quand le journal m'est tombé des mains. tomber des mains. Comment on peut mettre 9 à Mbappé pour le match parfait?
J'ai
un triplé à Barcelone.
Mais c'était
vous êtes, dans l'erreur.
Il n'y a qu'une seule. C'est Shevchenko qui l'a fait avant, qui a interviewé un jour Gilles en Ukraine.
Exactement.
Un seul joueur au monde qui avait réalisé ça, c'était avec le Dynamo Kiev.
Mais Turbo,
vous avez vu l'équipe du Barça, des champions. En Ligue des Champions, c'est Shevchenko qui avait réalisé l'espoir de mettre un triplé en Ligue des Champions au Camp Nou. Il n'y avait qu'un seul joueur au monde qui l'a fait. C'est Shevchenko qui a été futur Ballon d'Or. Reconnaissez qu'il est à chaque fois qu'il bat des records ou qu'il les égale, à chaque fois c'est ou Pelé ou Shevchenko.
Mais t'as vu la défense du Barça?
Excusez-nous, ça n'arrive pas. Ils ont déjà eu des mauvaises défenses.
Tu la rends aussi comme ça, la défense.
Ah ouais, c'est pour ça. Ils étaient des clètes derrière, mais c'est grâce à la
défense. Descendons un peu en température.
Oui, mais reconnaissez qu'Mbappé méritait 10 et on clôt le débat.
Non, jamais de la vie. Non, mais non, 10 c'est la perfection. La perfection n'est jamais atteinte.
C'est la Giacomanici.
Et je vous l'accorde, 10 en compétition lorsque vous gagnez un titre. Voilà, c'est tout. C'est un match, éliminatoire. Émile Leclerc est avec nous depuis pas mal de temps. Bonsoir Émile.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Directeur des études chez Odoxa, Odoxa, RTL, Winamax, pour un baromètre, un sondage lancé cette semaine, mais après, bien sûr, après ce résultat fantastique. Évidemment. Alors, on va prendre les choses dans le désordre, donc je vais vous piéger un petit peu, parce qu'on parlait d'Mbappé, cher Émile. Mbappé, une écrasante majorité des Français et des amateurs de foot souhaitent qu'Mbappé reste au Paris Saint-Germain, on est d'accord?
Oui, exactement, on l'avait déjà mesuré, et là, ça se précise encore plus, et c'est vraiment un soutien massif pour les Français et les amateurs de foot. Mbappé a changé de dimension avec ce match, 68% des amateurs de foot le pensent. Il a le potentiel pour devenir le meilleur joueur du monde dans les années à venir, donc Ballon d'Or potentiellement. Ça progresse parce que c'est un indicateur qu'on mesure dans le temps, et là ça a encore progressé, 84% des amateurs de foot le pensent. Évidemment, le PSG doit tout faire pour le conserver à 83%, et même on a posé une petite question provocatrice: est-il meilleur quand Neymar ne joue pas? Eh bien 66% des amateurs de football le pensent.
Voilà.
Alors ça c'est important parce que vous saisissez la nuance. Est-ce que le PSG est meilleur sans Neymar, ou est-ce que le PSG, ou est-ce que Mbappé est meilleur sans Neymar?
Il est meilleur Mbappé sans Neymar.
Je trouve que ma question est assez subtile.
Bon, c'est aussi un peu la dictature de l'instant, hein, parce que honnêtement, comme le disait Dominique, sur le Final Eight, s'il n'y a pas Neymar, vous ne faites pas le quart du dixième de ce qu'ils ont réalisé. Donc moi, je reste quand même persuadé que quand dans un groupe de rock, t'as à la fois Keith Richards et
Mick Jagger,
c'est mieux que s'il en manque un. Tu vois, c'est-à-dire que si t'as des génies du jeu.
Alors ça, c'est ensemble, ce que vous avez dit jeudi dans Les Auditeurs ont la parole, ouais, avec Pascal Pro, qui m'envoie un petit message
d'ailleurs à Pascal, Pascal, j'avais envie de leur dire.
Et qui me dit 9,5 la note.
Ça, c'est la note de ceux qui ont peur. C'est la note des peurs.
Franchement,
le demi-point, c'est la note des peurs.
Pascal, en 2015.
Pascal Pro, donc, est un peu heureux.
C'est la note des gens qui
sont. Philippe Sansfourche. C'est un socialiste.
Ah oui, bien sûr. Philippe Sansfourche.
Quand le Barça marche sur la Ligue des Champions et sur l'ensemble de ses adversaires en 2015, vous avez Messi, vous avez Neymar et vous avez Suarez. Et à ce moment-là, Neymar, il termine meilleur buteur de la Ligue des Champions et il gagne la Ligue des Champions. Donc expliquez-moi que ce joueur est un maillon faible pour le Paris Saint-Germain et que l'associé à Mbappé est un handicap. Et moi, j'arrête tout, je rends les clés et je rentre à la maison.
Je suis pas certain que le socialisme soit vraiment l'esprit de la synthèse totale, mais il aurait été un disciple de Jean Le Canuet.
Le
centre des démocrates sociaux.
C'est
un coup à droite, un coup à gauche, je fais la synthèse.
Au gré du vent, c'est ça que vous voulez dire.
Un peu, alors, selon la synthèse. Allez, 19h, et on l'embrasse Pascal Pro. 19h et 29 minutes, la publicité. Derrière la publicité, on retrouve tout de même les résultats du baromètre Doxa avec l'ami Émile Leclerc. Les résultats de Ligue 2 également, beaucoup de choses. Et on parlera de Lyon également, puisque Jean-Michel Aulas a un plan pour faire revenir les supporters en tribune. A tout de suite.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Encore 30 minutes, on fait le match pour notre et votre, on l'espère, plus grand plaisir. Et ensuite, 20h-23h, RTL Foot, nouvelle version. On fait le match, Philippe Sansfourche, Dominique Sévrac, Gilles Verdez et Stéphane Pauvel. Sans oublier, bien sûr, Émile Leclerc, directeur d'études à Odoxa. Odoxa, RTL, Winamax, ce sondage, ce baromètre qui enflamme les débats, mais dans un instant seulement, car il y a de la Ligue 2. Et la Ligue 2, c'est de mieux en mieux avec Baptiste Durieux.
Je suis désolé, Christian. Il y a un seul but marqué pour l'instant. Marqué par Nancy qui mène 1-0 face à Grenoble. Je vous rappelle les affiches 0-0 donc sur les autres pelouses. AC Ajaccio, Clermont, Amiens, Sochaux, Chambly, Auxerre, Le Havre, Dunkerque, Niort, Pau, Paris FC, Châteauroux et Rodez, Toulouse. Et puis trois leaders a fait match nul à Valenciennes de partout.
Mais vous influencez, Christian, vous influencez Baptiste qui maintenant s'excuse qu'il y ait des 0-0. 0-0, c'est la quintessence du foot, c'est le score parfait.
Ah, je suis d'accord.
Des attaquants magnifiques et des parades de gardiens de but 0-0.
Il y a de très bons temps qui est et regardez les matchs de Ligue 2 un peu plus souvent, cher Stéphane.
Voilà. Mais je regarde ça.
Et je peux vous dire qu'il y a des matchs qui valent sacrément les matchs
de Ligue 1. Mon cher Christian, je suis Toulouse, bon, puisque j'ai de la famille
c'est
à Toulouse.
C'est dire quel est le niveau de la Ligue 1.
Et qu'il y a des Belges qui jouent à Toulouse. Voilà.
Les messages, réseaux sociaux, le compte @RTLFoot, Baptiste.
Oui, et cette grande question, fallait-il mettre un 10 sur 10 à Mbappé? Paul a la réponse, notre auditeur. Il fallait qu'il fasse quoi, Mbappé, après son triplé au Camp Nou, pour soi-disant mériter son 10, qu'il réconcilie Griezmann et Piqué, qu'il donne la moitié de son salaire pour aider les finances du Barça? Ou qu'il trouve un nouveau vaccin contre le Covid?
Ce sont des arguments qui
ridicules.
Et il rajoute, il a 10 parce qu'on ne peut pas lui mettre 11.
Bah oui.
Mettez 12 aussi.
Vive les auditeurs et vive
pourquoi 9 alors,
vous êtes d'accord
Christian,
avec ça, alors, Christian, devant vos arguments.
Christian, ouais. Pourquoi 9 alors? Parce que nous 10 on comprend.
Je viens de vous le dire, Dominique. Parce que 9 c'est déjà une note absolument extraordinaire.
Mais qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce qui manque le 1? À part le titre.
Un trophée. On vous fait du sport, la compétition.
On met 10 qu'en finale de la Coupe du Monde, qu'en finale avec des champions, qu'en finale de la Coupe de France, qu'en finale.
Moi j'aimerais bien que Dominique Sévrac, quand Mbappé est très moyen et qu'on lui met 7, qu'on lui met 4 alors, puisque vous êtes excessif.
Ah bah, il a eu 3.
Quand vous êtes excessif dans le 10, soyez excessif quand tu n'en touches pas une, quoi. J'achète le Parisien, pas comme Gilles Verdez, avec mes sous.
Quel est le joueur du Parisien aujourd'hui en France qui voulait un 9 sur 10 sur
le Celui qui était à Barcelone, puisqu'on n'avait qu'une seule place, c'était Sébastien Nieto.
Oui, et en plus, vous voyez, vous ne faites pas confiance à.
C'est pour ça qu'on l'a envoyé.
Le seul mec qui a vu le match,
c'est un autre débat.
Ça, c'est magnifique.
Les matchs qu'on voit à la télévision ne sont pas forcément les matchs que l'on voit.
C'est pour ça qu'on l'a envoyé. C'est pour qu'il note depuis le stade.
Il a changé sa note. S'il a mis 9, c'est qu'il a été bon.
Et pourtant, le Parisien aujourd'hui en France est partenaire de l'offre sportive de RTL. Mais permettez-moi de vous dire, vous ne faites pas confiance à vos envoyés spéciaux sur le terrain.
On l'a fait en concertation avec lui. Il a reconnu que lui, il a noté un peu techniquement. Et nous, on lui a dit, écoute, on va rajouter un point d'émotionnel.
Si tu changes pas ta note, tu restes à Barcelone, tu rentres pas.
Et tu sais quoi, Dominique, ne l'envoie plus au stade si c'est pour changer
sa note.
C'est un très très grand journaliste.
On a tous eu un prof qui mettait jamais plus que 16.
Ouais. Moi j'ai
même
jamais
quand,
eu ça.
Même quand
c'est Christian.
La note de 10, elle te va, toi?
Moi, je trouve que ça me choque pas, en fait. Quand on est.
Les Parisiens, ça
résultat du sondage.
Bienvenue au parti de Pascal Faure.
Christian Olivier, votre baromètre. Ouais. Si je le chiffre en tête, 68% des amateurs de foot estiment que Mbappé a changé de dimension au terme de ce match.
Sur un match,
quand
il change
on sait ce qu'est déjà Mbappé,
dites...
champion du monde, il a pété tous les records, comme on le disait. Ce match change sa dimension pour 68% des gens.
Philippe s'en fout. Philippe s'en fout. Pendant 3 mois, on est en train de dire qu'il n'en touchait plus une. Il fait un très bon match et on parle d'une autre dimension. Mais vous avez.
Mais moi, j'arrive.
Mais c'est pas contre
un côté démesuré des
Stéphane.
Au-delà de la culture de l'instant, à ton avis, il est plus représentatif de ce match de mardi contre Barcelone ou des 3 mois mauvais qu'il venait de faire? À ton avis, chez lui, il est plus proche de quel niveau, à ton avis?
Vous lui mettiez combien en note?
Il est proche
des mauvais
3. Moi, il est proche du 8 régulièrement. Et le 10, c'est usurpé. Non, c'est usurpation.
À ton avis, entre
c'est
la mauvaise période et ce qu'on voit de lui depuis, on va dire, Monaco, il est plus proche de quel niveau plutôt? Il est 7. Plus proche de ce qu'on a vu mardi.
Hein?
Il est plus proche.
Mais
de...
vous voyez pas les mêmes matchs?
Non, mais il est plus proche. Sa carrière, est-ce qu'il va être? Est-ce qu'il
carrière,
est sera plus proche de ce qu'on a vu mardi?
Ah, mais
que
pour
des
vous, déjà
mauvais...
Ballon d'Or, c'est fait.
En tout cas, c'est moi qui décide.
On le lui souhaite. Gilles Verdez et ensuite Émile Leclerc.
Oui, mais je voulais rebondir sur ce que disait fort justement Émile. C'est que. Philippe le disait, plus de 2/3 des Français considèrent que Mbappé a changé de dimension. Et je trouve que votre note et votre manière de considérer Mbappé, je vous le dis en toute amitié, ainsi qu'à Stéphane, c'est altérer cette popularité naissante d'une étoile. Comme si vous n'étiez pas content, vous ratiocinez un peu. Mbappé, il n'est pas vraiment superstar, parce que peut-être quand il marquera 3 buts en finale de Coupe du Monde,
Gilles,
il a déjà gagné la Coupe
vous plaît,
du Monde.
Vous qui êtes
il
un homme
déjà...
brillant et qui maîtrisez absolument bien le vocabulaire, est-ce qu'on a employé une de ces expressions? Une seule de ces expressions?
Non, mais vous auriez pu, je le pense.
Mais soyez prudents. Le temps long, Gilles, le temps long. Acceptez le temps long. Acceptez
et vous
le
avez
temps
un prodige sous les yeux, un prodige français, et on lui tape dessus. Et ben, vous savez ce qui va se passer, Mbappé. Il va vous dire au revoir, je pars au Real Madrid, j'en ai marre de tous ceux qui me critiquent. Pas à vous, il vous adore, ouais, mais tous ceux qui me critiquent, bon, j'en ai marre, je m'en vais.
Je,
voilà,
pense en tout cas que Mbappé doit adorer le Parisien aujourd'hui en France, et je pense que l'interview va bientôt venir dans le Parisien aujourd'hui en France.
Ouais, parce que vous pensez qu'on met 9 ou 10 en fonction des interviews qu'on a.
Eh bien, figurez-vous.
Là, vous nous dites qu'on est acheté, en gros.
Pas uniquement au Parisien aujourd'hui en France, mais je pense que de temps en temps, effectivement, ça permet de.
Ce journaliste de l'équipe qui est aujourd'hui à la télévision, qui faisait ses notes en fonction de ses amitiés, ça c'est terminé.
Non, j'ai pas dit en fonction des amitiés, mais enfin, entre 9 ou 10, on choisit finalement 10. Ça permettra.
Je vais me remettre à vous acheter, Dominique. Parce que là,
vous vous rendez compte que depuis un quart d'heure, vous commentez une note et un article que vous n'avez pas lu quand même.
Mais la note, j'ai pas besoin de la lire pour la connaître. Je savais que Dominique mettrait 10. Ce qui m'a tué, c'est le 9 de l'équipe. Ils comprennent rien. Ils
non,
sont à côté,
non. Moi, je défends l'équipe. Moi, ce qu'à un moment, ce que je ne comprends pas, c'est votre côté de surdimension. C'est-à-dire, il est tout d'un coup sur un match. Ça y est, c'est Dieu de retour.
Mais il n'y a qu'un seul joueur qui l'avait fait.
Mais c'est une équipe de peintres. Le Barça, c'est une équipe de peintres.
Mais c'est la première fois qu'ils ont une mauvaise défense. En 30 ans, en fait, Barcelone est une mauvaise
d'artiste
défense.
Peintre, alors.
Ils en ont eu des mauvaises
défenses. Mais ça fait un an et demi qu'ils sont à la
Ramada. Bah, Barcelone a mis 3 buts depuis un an et demi.
Il a pris une autre dimension. C'est Dieu.
Émile Leclerc.
Qui est Dieu?
Qu'est-ce qui vous gêne comme Émile... Qu'est-ce qui vous gêne dans la dimension?
De mettre 10, c'est dithyrambique.
Dans la dimension qu'elle est exagérée. RTL, Winamax, Ligue des Champions. Alors, une grande majorité des amateurs de foot également ont été surpris par la performance du Paris Saint-Germain.
Bah oui, pour eux finalement c'était peut-être pas une équipe de peintres hein, le Barça, même si on sait que c'est qu'ils sont en difficulté depuis le début de la saison, c'est quand même une performance exceptionnelle et mettre 4-1 au Camp Nou, ça a surpris effectivement 69% des amateurs de football, malgré en plus avec l'absence de Neymar et Di Maria hein, donc c'est un vrai résultat,
c'est une bonne nouvelle
anodin pour les amateurs de football.
Ne remets pas le couteau dans la plaie, Émile. Mais alors moi il y a un truc il y a un paradoxe là dans votre baromètre, si vous me le permettez Émile, bien sûr. Il y a une grande majorité des Français, des amateurs, qui pensent que le PSG est capable de remporter la Ligue des Champions, mais toutefois, la moitié des amateurs de foot craignent une nouvelle remontada.
Exactement, et c'est pas impossible. Alors la crainte, elle est plus proche du traumatisme. Alors je vais rappeler les chiffres effectivement. 57% des amateurs de football nous disent aujourd'hui le PSG peut gagner la Ligue des Champions. En une semaine, on avait posé cette question la semaine dernière, rappelez-vous, ça progresse de 14 points. Donc c'est dire l'importance de ce match dans l'esprit des amateurs de football. Et effectivement, ils sont la moitié à nous dire bah, « je crains une nouvelle remontada ». Je pense qu'on est plus proche du traumatisme, faut se rappeler quand même de 2017, et puis aussi assez récemment hein, de Manchester, où il y avait eu un comeback. Donc, ils préfèrent rester prudents, même si le club a changé clairement de dimension. Enfin, cette équipe, cette année, a changé de dimension et peut enfin avoir des ambitions telles que la Ligue des Champions, surtout, là où les premiers mois avaient montré le contraire.
Et il y a surtout un autre entraîneur, je pense que, honnêtement, à l'époque, et Dominique, c'est vrai que l'avait vécu, j'avais annoncé la remontada parce qu'il y avait une espèce d'égo. Là, ils avaient fait le tweet 4-0, vous vous rappelez de Kurzawa, il y avait une espèce de chambrage. Je pense qu'ici, Paris, la remontada, j'y crois pas un mot.
Il y avait un mauvais entraîneur, surtout.
Et il y avait un entraîneur qui avait fait n'importe quoi, ils se sont fait bouffer après le premier quart d'heure au Camp Nou parce qu'ils n'ont pas été dans
le duel. Raymond Domenech espagnol.
Je me rappelle que Rabiot, il avait été bouffé tout le match. Ici, j'y crois pas un mot, je pense que Paris va se qualifier. Et cette équipe de Barça est faible, c'est impossible cette remontada. Ou alors, on doit vraiment arrêter le foot. Quoi.
Merci beaucoup, Émile. Merci.
Merci à vous.
D'autres informations à venir, évidemment, à 9h. Avec vous Philippe demain
sur une synthèse de ce qu'on vient de
ce baromètre Odoxa RTL Winamax. Merci beaucoup, bonne soirée Émile. 19h38, on enchaîne, la publicité viendra un tout petit peu plus tard, on va enchaîner avec Jean-Michel Aulas qui a un plan pour faire ou refaire venir les supporters. Alors il y a eu discussion ce matin, on n'en a pas les résultats exacts, hein, avec Roxana Maracignanou qui était à Lyon. Il y avait une réunion, Jean-Michel Aulas, patron de Lyon. Il y avait Tony Parker, le patron de l'ASVEL pour le basket, et Olivier Ginon, l'un des patrons du Loup, l'équipe de rugby.
Ça a l'air d'avancer avec le basket quand même. Hein. Oui. La journée a été fructueuse.
Quel est le plan, alors ?
Moi, je suis totalement contre.
Quel est le plan ?
Mais quel est le plan, alors ?
Ce serait de faire revenir petit à petit quand même, avec une expérimentation en dosage, d'abord vers le basket. Non, j'ai pas les détails, mais
alors,
avec
je
pense que le basket. Ouais.
Deux choses. D'abord, effectivement, la jauge, hein, avec des distances et un public réduit. et avec ce qui là va poser sans doute problème en France, même si en Espagne on en essaye avec l'équipe, le club de Gérone en deuxième division, qui essaye d'instaurer cela, c'est Covid free, c'est-à-dire vous avez votre téléphone,
un passeport vaccinal.
Alors d'abord faut être vacciné, mais pour le prouver, il faut montrer, il faut faire
pas de blanche. Voilà.
Ouais. Là ça pose quand même un problème de discrimination
par rapport à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner.
Ce plan est impossible. Moi, je suis totalement contre.
Attention, parce que l'Union européenne va peut-être y venir, Gilles. Hein, pour les voyages, pour prendre l'avion, pour aller aux manifestations sportives, pour aller aux manifestations culturelles.
Je resterai totalement contre.
C'est pas forcément l'initiative.
Mais pour le moment, je trouve que d'abord...
Le QR code.
D'abord, je trouve que le sport n'a pas vocation à renouer avec le public. Pour moi, l'Euro doit être à huis clos s'il se fait, les Jeux Olympiques à huis clos évidemment, tous les matchs de foot à huis clos, il n'y a pas de retour pour moi du public dans les stades tant que le protocole sanitaire ne sera pas le même pour tout le monde. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une exception du public dans les stades. Donc je ne comprends pas ce que la ministre est allée faire à Lyon. J'adore Jean-Michel Aulas, mais là je ne comprends pas. On dit même qu'il faudrait effectivement être vacciné ou pourquoi pas, avant d'aller au stade, se faire vacciner. Donc ça voudrait dire qu'il y a des privilèges pour ceux qui restent au stade.
Ce n'est pas encore fait. Deux, toutes les pistes sont sur la table. Trois, vous ne pouvez pas reprocher à Roxana Maracine et à nous d'aller discuter avec les dirigeants du sport pour tenter de trouver des solutions le jour J.
Pas d'exception sportive.
À Marseille, à Paris, ils étudient la faisabilité de faire des concerts.
Mais c'est plus que ça. J'entendais encore hier sur cette antenne le directeur des Francofolies de La Rochelle expliquer qu'ils allaient avoir l'autorisation, qu'elle était actée, pour avoir 5000 personnes sur un concert. Simplement, pas le droit d'être debout, assis à une certaine... Donc en fait, un protocole qui semble être calqué sur celui qu'on pourrait avoir dans les stades.
5000, hein.
Et comment autant, tu vas choisir les 5000 ?
Autant il n'y a pas de raison de privilégier les amateurs de sport, autant il n'y a pas non plus de raison de les faire passer la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que si la culture, si la musique peut avoir accès à un retour progressif aux spectateurs dans les salles de concert, pourquoi pas les stades de foot ?
Et Dieu sait si lors de nos premiers débats, lors du premier confinement, on était Gilles sur la même longueur d'onde, c'était la prudence qui s'imposait. Au moment de l'arrêt du championnat, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de solution, on ne savait pas où ce satané virus aurait pu nous entraîner, donc il fallait vraiment couper court à tout. Alors il y a eu débat, ils ne l'ont pas fait en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, il y a eu débat, ok. Mais là, pour le coup, avec une organisation et avec un contexte sanitaire quand même peu plus élaboré, pourquoi pas le sport ?
Mais bien sûr, moi je suis en désaccord total avec Gilles. Pour moi, le sport, c'est forcément une communion avec un public. D'ailleurs, ça fait un an qu'il n'y en a plus, des gens, et excusez-moi, on s'ennuie à regarder les matchs. Le Camp Nou, avec 100 000, peut-être 30 000, peut-être 20 000, et dont peut-être 1 000 Parisiens, ça aurait été complètement différent, se tripler devant des gens. Cette communion que Mbappé n'a pas pu partager. Pour moi, c'est... Il manque quelque chose depuis un an quand je regarde un match à la télé.
Il manque les théâtres, il manque le cinéma, on parle de sport.
Ah oui. Moi demain soir je vais voir PSG Monaco dans la tristesse d'un Parc des Princes complètement vide où on va me mettre des chants dans les oreilles que j'aime pas ça. Je déteste ce procédé de rendre le match fake par rapport à son ambiance parce que le poumon d'un stade.
On est dans un autre dossier.
Vous savez, il y a eu une petite parenthèse en septembre-octobre. Il y avait une petite jauge de 5000 dans certains stades en France. Et bien, même 5000, c'était déjà différent.
J'ai
eu la chance de vivre ça. C'est super, même 5000. Alors, le parc, il faudrait faire peut-être 10 à 20% d'un stade. Marseille, c'est combien ? 60 000. Peut-être en mettre 10 000, 12 000. Ça sera déjà mieux que rien. 12 000 dans un stade de 60 000.
Tu fais les mêmes plans serrés.
Avec des masques.
Avec
du gel.
Sur les supporters en bas des tribunes, que les plans serrés auxquels on a le droit actuellement pour ne pas montrer justement que les tribunes sont vides. Et tu as une atmosphère un peu différente.
Non, mais messieurs, c'est ta première. Christian, si les gens se lavent les mains, s'ils n'arrivent pas tous au stade au même moment, s'ils mettent des masques,
Dominique,
c'est faisable.
Alors, c'est pas le problème, Dominique, ça. Tout ce que vous nous dites là, c'est pas le problème. Le problème, c'est que maintenant d'arriver vacciné.
Depuis le début, moi je rejoins Gilles un petit peu. Moi, je comprends ce que tu dis dans l'émotion. Mais là, comment on va maîtriser il n'y a plus qu'à nous mettre une puce dans le derrière, quoi. Ça veut dire que maintenant, on va devoir montrer des. Maintenant, on est suivi. On va devoir montrer des tests.
En Israël, tu as un badge immunitaire.
Oui, mais alors, il y a
pour aller au restaurant, pour aller au concert.
Mais je suis contre.
Mais comme dit Gilles, et même moi, je suis un petit peu de l'avis de Gilles Verdez. C'est que je veux dire, à un moment, on va devoir donc montrer des pattes blanches pour pouvoir aller à un concert, un match de football.
Mais on ne vous empêche pas de vous faire vacciner. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous avez le droit.
Et puis alors on va dire.
Je trouve qu'il y a une espèce.
Vous n'irez pas au stade.
On n'est pas en démocratie.
Mais si, on vous laisse le droit.
On nous impose.
Je ne pas vous vacciner. Mais moi, j'ai envie d'aller au théâtre, j'ai envie d'aller au cinéma.
Discrimination.
Moi, je me discrimination.
Mais on va dire. Mais non, les personnes fragiles.
C'est votre choix. Je ne vous demande pas de vous faire vacciner. Je vous dis que
c'est la discrimination. Les gens n'ont pas les moyens de se faire vacciner.
Comment ça, pas les moyens? C'est gratuit en France.
C'est gratuit pour l'instant. T'es pas loin d'être vacciné.
En France, c'est gratuit.
Le vaccin.
Oui, mais tout le monde n'est pas encore vacciné.
Mais parce que l'accès n'est pas encore généralisé. Il y a des
Donc on va dire, alors oui, mais alors au stade, il y a quelques risques. Donc les personnes de plus de 70 ans, 75, 60, tout ce que vous voulez, ne pourront pas venir.
Non.
Alors, mais si, ça va être que ça. Ça va être une sélection.
Ils seront vaccinés.
Ça va être une sélection.
Vacciné, t'as encore 5% de risque.
On sera vaccinés tous au 31 décembre 2022.
Il n'y a pas de risque.
Non, mais là, c'est un bon argument.
Il y a toujours un risque.
La discrimination par l'âge,
bien sûr, il va y avoir une sélection des supporters. Mais non, arrêtez. Il va y avoir une sursélection alors des supporters. Ça va être réservé à des gens qui vont rentrer dans les cases et ça va être retoqué immédiatement par tout ce qui est conseil constitutionnel, puisque c'est non conforme à l'égalité des gens. Ça ne peut pas marcher en France, ce système-là. Et regardez, Christian, vous vous intéressez au rugby. L'équipe de France de rugby, ils jouent entre eux, il y a plein de cas positifs. On ne maîtrise rien. Et vous voulez que des gens rentrent dans des stades massivement pour refaire des clusters ?
Ce que vous ne comprenez pas, Gilles, c'est que vous êtes en train de faire croire aux auditeurs que ça serait une exception du sport. Les gouvernements sont en train de travailler au passeport vaccinal, au QR code, à l'échelle européenne et pour les lieux où il y a du public. C'est-à-dire les musées, les matchs de foot et de rugby, les matchs en général, le sport, les manifestations culturelles, concerts, extérieurs, intérieurs, la file à l'harmonie comme les grandes charrues, le cinéma.
Les vieilles charrues, vous voulez dire.
Les vieilles charrues. Ouais. Donc voilà, donc ce n'est pas le sport qui demande une dérogation et aller au stade par son. C'est la société européenne et française qui s'interroge dans son
alors,
ensemble.
Alors pourquoi
il
n'y
aura pas une exception sportive.
Je suis d'accord avec toi, mais alors pourquoi il y a un truc qui m'interpelle. Si Madame la ministre, elle s'en va à Lyon. Pourquoi à Lyon ? Pourquoi il n'y a pas de réflexion
nationale ? On fait des tests.
Alors,
si Madame la ministre n'y allait pas, Lyon, on dirait qu'elle reste dans son bureau parisien.
Mais elle peut faire pour tout le monde. Pourquoi ? Si elle, comme dit Dominique, c'est vrai qu'il y a une réflexion.
Il y a une
globale.
Initiative à Lyon et qu'il y a une coordination entre différents sports et différents clubs pour pouvoir avancer dans la matière.
Mais non, c'est un procès d'intention, là, Stéphane. Franchement, non, c'est un procès d'intention. Il y a une expérimentation qui peut se faire dans un stade qui est gigantesque, qui est grand, où on peut réduire effectivement une jauge, mettre 10 000 personnes, etc. Elle se fait à Lyon. Dans
les concerts, ça sera à Marseille avec Ayane.
Et voilà.
Donc, pour les concerts, ça va être
mais
à Marseille.
Mais il y a aussi le président, il y a Tony Parker, il y a aussi.
Parce qu'il y a une synergie à Lyon.
Ils ont souhaité être moteur sur ce dossier-là, voilà, mais ça n'empêche pas les autres de venir dans toutes les régions de France.
Que les autres présidents lèvent le doigt et disent nous aussi, on a des solutions.
Ah ben ça se serait bien alors. Comme ça, Madame la ministre, elle peut aller partout, qu'il y a une synergie partout.
Écoute, on lui a reproché.
Mais non, mais je me demande pourquoi.
Il faut bien avancer. Ça fait plus d'un an maintenant qu'on est dans cette situation. Si des solutions émergent, il faut les tester. Ça ne veut pas dire
qu'un jour le public revienne dans les.
Oui, mais avec le sens de l'anticipation qu'il faut avoir, le public reviendra. Mais dans combien de temps dans des stades complets? Parce qu'on n'est pas au bout de nos peines avec ce coronavirus.
Dans 20 ans.
Donc il faut bien à un moment donné anticiper, Stéphane.
On d'accord, ne m'engueulez pas. Moi, je pose des questions. Je ne comprends pas pourquoi c'est à Lyon et pas à Lille. Quoi. Voilà,
ou à Bordeaux.
Non, j'ai compris que M. Aulas, déjà aussi, il y a deux ans, c'était déjà lui qui voulait quand même qu'on continue à jouer.
Peut-être que si ça se fait.
Réveillez vos amis lillois.
Peut-être que si ça se fait.
Non, mais j'adore M. Aulas.
Jean-Michel Aulas, qui est quand même un petit peu le président, le boss en France. S'il prouve que c'est possible, peut-être que tout le monde s'y mettra, qu'il y aura moins de réticence que
d'accord.
Si c'est.
Bah à l'époque, rappelez-vous quand même, dans ce même studio ici,
c'est un autre débat.
Un an et demi, il proposait des choses complètement absurdes et que tout le monde disait qu'il est à côté de ses pompes.
C'est un autre débat. 19h. C'est un autre débat. Tu peux te tromper une fois et avoir raison l'autre fois.
C'est vrai.
19h48, la publicité, la Ligue 2, c'est de mieux en mieux. Et vos messages sur le compte @RTLFoot. Puis je pense qu'on pourra attaquer les tirs au but. Je rappelle le principe pour tous ceux qui nous rejoindraient, tirs au but, d'une série de questions sur l'actualité football qui ne vous a pas été soumise, bien évidemment. Pas de la politique, on ne fait pas d'émission politique. Et donc, que vous allez découvrir, et au coup de sifflet que vous avez entendu, boum.
Et les faibles sont éliminés au fur et à mesure.
Au fur et à mesure.
Publicité. RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Les tirs au but, on fait le match à 19h et bientôt 51 minutes. Toujours autour de cette table, Philippe Sang, Fourche pour RTL, Dominique Sévrac, le Parisien aujourd'hui en France, 10 sur 10 pour Mbappé. Et bientôt Mbappé à la une du Parisien. Gilles Vernez.
Avec plaisir.
Gilles Vernez. si on peut coupler et faire une interview radio et.
Bah non, vous lui avez mis 9.
Vu qu'on l'aurait pas. Mais, hein. Mais,
donc je pense que Kylian Mbappé est très intelligent.
Vu qu'on n'aura pas deux fois cette chance de l'avoir en interview, vaut mieux la coupler, oui.
Et pas deux fois la chance de lui mettre 10.
Gilles Verdez, le procureur, et Stéphane Poels. Les tirs au but, les amis. Alors, il y a toujours, vous le savez, dans les tirs au but, je ne vais pas me répéter. Une question Ligue 2. Je suis extrêmement déçu, car évidemment, les intervenants ne sont pas toujours les mêmes chaque samedi. Mais vous avez été incapable de trouver le meilleur buteur du championnat de France de Ligue 2. Vous avez été incapable de trouver le président de l'en avant Guingamp. C'était samedi dernier, puisqu'on avait Noël Le Graët qui était invité. Donc, la transition était facile à faire. Incapable de me trouver le. Enfin, deux, trois choses assez basiques. Basique, finalement. Donc je vais faire encore plus basique. Mais d'abord, les résultats peut-être à la mi-temps, Baptiste, ça existe ou pas ?
Mais bien sûr que ça existe. Formidable en tout cas ce qui s'est passé sur le plus de Ligue 2. 0-0 entre l'AC Ajaccio et Clermont. 0-0 encore entre Amiens et Sochaux. 0-0 toujours entre Chambly et Auxerre. 0-0 toujours encore entre Le Havre et Dunkerque. 1-0 attention pour Nancy face à Grenoble. 2-0 pour Niort face à Pau. 0-0 entre le Paris FC et Châteauroux. Et puis 1-0 pour Rodez face à Toulouse.
Merci messieurs. Alors on va faire simple sur cette question. Attention, oui. Vous attendez le coup de sifflet évidemment. Oui. On va faire très très simple. Vous qui aimez et qui vous passionnez pour le championnat de France de Ligue 2, quel est le leader de ce championnat de France?
3.
Bah oui, mais vous êtes disqualifiés tous. Vous n'avez pas attendu le coup de sifflet. Alors Gilles et Poli, il a levé le doigt. Ouais. Et vous êtes particulièrement discourtois, Stéphane.
J'ai levé la main.
Ah oui, non, mais vous n'attendez pas le coup de sifflet. Donc 3.
Voilà, Mes excuses. Voilà, très belle équipe. Moi, j'espère qu'ils vont remonter. Franchement, avec un projet de jeu, voilà, j'adore.
3 Toulouse.
Ils ont clairement deux buts partout à Valenciennes.
Ouais, c'est pas mal. Ils étaient menés 1-0, je crois. Ils ont mené 2-1.
Bon, c'est pas mal. Vous remontez un peu dans mon estime. Allez, une question. L'international français du Bayern. J'ai noté là. Hein, donc, il faut pas que je. L'international français du Bayern Munich, Corentin Tolisso. Salement blessé à l'entraînement. Cuisse gauche sérieusement touchée. Forfait probable, très probable, pour le championnat d'Europe. Réaction d'ailleurs, c'est assez inhabituel, hein, réaction de Didier Deschamps sur le site de la 3F, de la Fédération Française de Football, qui se dit notamment attristé. Attention. Est-ce un signe de grave blessure à venir pour d'autres footballeurs?
Oui, je le crois. Dominique Cévra. Je le crois, Christian, parce que on est dans une année particulière. On vient de parler des huis clos. On est avec une majorité de championnats qui ont repris, hein, au bout de quelques mois de confinement. Et il y a que la France qui n'a pas repris, qui a repris 4-5 mois après par deux finales de Coupe nationale avant le Final 8 pour Lyon et Paris, puis la saison. Et donc ça, c'est extrêmement rare quand vous n'êtes pas blessé d'avoir dans votre saison un creux de 3-4-5 mois. Et d'Europe, et qui n'est pas dû, vous ne pouviez pas vous être à plus de 10, vous ne pouviez pas vous entraîner. Donc je pense que les conséquences, on ne les mesure pas assez. On a peut-être la NHL qui a quelques années a eu un lockdown. Quand ils ont repris, il y a eu une vague de blessures incroyable. On a eu une augmentation de plus de 70% de blessures. Donc il est à craindre, à mon avis, que ce qui est arrivé au malheureux Corentin Tolisso, qui a peut-être une fragilité par ailleurs musculaire, parce que pas la première fois qu'il se blesse, peut-être qu'on va vers une vague de blessés importants.
Je suis assez d'accord, il y a eu d'autres blessures graves. Hein. Van Dijk, par exemple, le défenseur talentueux néerlandais de Liverpool. Donc il y en a d'autres, il y a des fragilités. Et on sent, alors il y a des joueurs qui brillent comme Mbappé, mais on sent qu'il y a des joueurs qui vont impacter. Et la saison va être très longue avec l'Euro ou pour d'autres, les Jeux Olympiques. C'est trop long, c'est déraisonnable. Et beaucoup d'entraîneurs montent au créneau, c'est déraisonnable.
Mais vous voyez le drame en Belgique avec Eden Hazard, hein. c'est un vrai drame. Hein. C'est un pion essentiel de cette équipe nationale. Et actuellement...
Il s'entraîne mal.
Il y a plein de choses qui font que c'est des grands points d'interrogation. Il est arrivé avec des... Oui, mais vous savez, on revient avec cette histoire de surpoids, c'était il y a un an et demi. Hein. Et pour finir, il traîne, il revient, il se recasse, il revient. Et c'était de vrais drames. Et je suis très inquiet pour l'Euro.
Tiens, vous me parlez d'Eden Hazard. Ben, on va poser une question sur Lille qui a été punie par l'Ajax Amsterdam cette semaine. Est-ce que finalement c'est pas une preuve supplémentaire ou une preuve tout court d'ailleurs de la faiblesse du championnat de France de Ligue 1?
Oui, totalement.
Non, Philippe Sanfourche.
Si, oui, totalement, parce que en fait, on s'est habitué à l'idée que Lille, qu'on dit équilibré, Galtier, nouveau génie du jeu français, en fait, dans les faits, c'est quand même bloc bas, on maîtrise, on a des joueurs qui vont assez vite et on part en contre. Et le jour où Bamba, il connaît son en forme, tout va bien. Le jour où ils sont pas là, c'est 0-0. Face à ça, vous avez quoi? Vous l'avez vu le match de l'Ajax? Parce que l'Ajax, ils ont perdu tous leurs grands joueurs en l'espace de 2 ans. Simplement, ils font revenir dans
COVID,
la machine.
Il y avait plein d'absents.
Et il y avait plein d'absents. Mais simplement, vous voyez cette identité de jeu. Alors, c'est une exigence, parce que ça veut dire qu'il faut tous les jours mettre dans l'esprit de ces jeunes joueurs qui arrivent, de ceux qui vieillissent, qui ne sont pas forcément au même niveau physique, cette implication du quotidien,
Philippe,
cette
force mentale. Philippe, quand Lille va gagner à Milan,
pour démarrer la rencontre comme ils l'ont fait,
j'allais venir. Ouais. Là, vous en parlez pas.
C'est la faiblesse de la Serie A.
Bah, et bien évidemment, la Serie A,
quand Mbappé marque 3 buts, vous en faites un ballon d'or.
Ce que l'Ajax a démontré à Lille est terrifiant pour le football français.
Le championnat de France est supérieur à la Liga, mais comme les Pays-Bas ont un club des Pays-Bas a battu, donc je ne comprends plus en fait.
Regarde les statistiques des clubs français
face au club hollandais et tu comprendras que pour Philippe, un championnat qui est 10 fois plus petit que la France, et ben les chiffres sont largement en faveur des Hollandais.
Philippe Sanfourche répond mais court.
Même si votre cœur est parisien, moi il est un petit peu lillois et je rejoins Dominique. C'est vrai quand il gagne 0-3 là, c'est marrant, on vous entend pas. Je vais juste vous dire un truc. Moi j'ai vu ce match là effectivement. Effectivement, l'Ajax méritait la victoire. Simplement, Lille, avec Galtier, tire sur cet effectif qui n'est pas dithyrambique. Il y a eu Burak Yilmaz qui a été blessé. Ils ont eu des blessés. Et donc, il y a un moment, il fait avec son noyau. Et on a le droit, une fois, d'être un petit peu moins bon contre une équipe qui a mieux joué.
Ils ont été mangés.
Lille est une équipe moyenne.
Si l'Ajax avait encore dit, c'était l'Ajax B.
Lille est une équipe moyenne. Mais
chacun son tour.
Ils sont fous.
C'est l'Ajax B.
Mais Lille va peut-être être champion de France.
Stop. Les amis, allez. L'État, le gouvernement, on va dire, sollicité par la Ligue pour venir au secours du football français. Est-ce bien moral tout cela ? Gilles Verbez.
Mais non, pas du tout. On a d'autres choses à souhaiter que de combler les déficits du football de présidents qui se sont confiés à Mediapro, une coquille vide, qui ont fait n'importe quoi, qu'ils assument. L'État ne viendra pas, je l'espère, au secours du football.
Ça, c'est de la démagogie, parce que ce n'est pas pour combler le vide Mediapro qui demande l'aide de l'État, c'est pour l'impact de la crise sanitaire. Donc si vous me dites que.
C'est le double effet, ça.
Si vous me dites que. Mais l'argent de Mediapro, il ne demande pas l'aide. Il demande l'aide pour le manque de billetterie, pour les matchs à huis clos, pour les sponsors qui sont bons. Si vous me dites que les 42 000 emplois liés au football en France ne sont pas menacés, si vous êtes en train de vomir sur les 42 000 employés en France liés au football, Gilles, dites à ces gens qu'ils ne servent à rien.
Je dis qu'on continue davantage à aider les petits commerçants, les étudiants,
parce qu'on les aide pas,
que le monde du football. Davantage, allez, petits commerçants, étudiants, que le monde du football.
Le match est terminé pour ce soir. Je remercie Philippe Sanfourche, Dominique Sévrac, Gilles Verdez et Stéphane Poels. Messieurs, vous avez été brillants. Pascal Pro.
Il nous félicite ou pas ?
Vous donne une note
de combien ?
10 sur 10.
Ah oui, merci. Et il va être engagé au Parisien.
Dans le studio, Eric Silvestro, bonsoir Eric.
Bonsoir. J'acquiesce, je mets 10 sur 10 à Dominique Sévrac. Bien sûr qu'Mbappé méritait 10 sur 10.
Les autres, je vous mets 9.
J'annonce, et non pas en exclusivité, qu'il y aura forcément un débat Mbappé avec Eric Silvestro à partir de 22h. RTL Foot, Eric Silvestro, nouvelle formule ce soir, car quand il n'y a pas de match, il y a quand même du football.
Mais il y a du foot sur RTL, on va revenir sur les matchs évidemment de Ligue 1 de l'après-midi, ceux de demain. Il y aura une nouveauté aussi, le défoutoir, où on parlera réseaux sociaux notamment. Guillaume Tessé sera notre premier invité. Et puis un conseil de l'Europe élargi. Ça va mal pour le Bayern Munich et pour l'Atlético. Les leaders sont à la peine.
On fait un petit coucou à Xavier Domer qui va se remettre très rapidement.
Il nous a envoyé un petit texto d'ailleurs.
Bon, on l'embrasse. Et évidemment, Eric, vous rejoindrons Giovanni Castaldi, Raymond Abou et Quentin Vasselin. Merci à vous tous de votre fidélité. À samedi prochain pour un nouveau On fait le match. Ciao, ciao. Thank you.